marche ce truc-là. Donc, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, Madame Cassel a choisi fort judicieusement, à mon avis, La Rochelle. C'est quand même, avec le temps qu'il fait, certainement plus agréable que Poitiers, puis en période de vacances. Voilà. Elle nous a demandé d'animer cette conférence débat. Et plutôt que de parler tout seul, j'ai préféré faire appel à un expert, mon ami le docteur Bernard Champin, qui a une pratique certainement plus considérable que moi-même de la vaccination. Parce que moi, je peux en parler beaucoup en théorie, sur son intérêt, enfin, un certain nombre de choses que je vais essayer de vous faire passer. Mais vraiment, la vaccination au quotidien, pour moi, ça a été la vaccination de mes enfants. Il y en a eu 5, mais ça s'est à peu près arrêté là, parce qu'après, je donnais des conseils, mais je ne les appliquais pas. Et donc, Bernard, lui, qui est médecin généraliste à Poitiers, a dans sa clientèle en charge tout un tas de gens qu'il faut vacciner. Il le fait tous les jours, ce que je ne pratique pas. Donc, je vous propose que cette conférence débat se déroule en deux parties. La première, je vais faire le titre, c'est la vaccination en 2009, enjeux et perspectives. Donc je vais essayer de vous expliquer quels sont les enjeux et effectivement les perspectives de vaccination. Et puis s'il y a des questions, Bernard interviendra également dans le courant de cet exposé. Puis après, il aura surtout la parole pour les éventuelles questions pratiques que vous seriez amené à lui poser. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons un comité technique des vaccinations qui, bien sûr, est à Paris. On n'imagine pas qu'il puisse être ailleurs. Et qui, tous les ans, nous pond des recommandations. Alors, il y a 3 ans, les recommandations qui paraissent au bulletin épidémiologique hebdomadaire faisaient 6 pages. L'an dernier, 18. Cette année, 32. On les a eues il y a 48 heures, parce qu'il ne fallait pas dévoiler le résultat des méditations transcendantales des experts parisiens. Le bon peuple attendait. Et aujourd'hui, on est obligé d'essayer de vous faire passer les messages et surtout de les avoir intégrés, puisque les choses changent en permanence. Hein, ce qui est tout à fait extraordinaire pour une technique qui date de 1721, vous le verrez tout à l'heure. Donc, première partie que je vous propose, c'est de faire un panorama de ce que sont les vaccins.
Une dernière toute petite précision, c'est que le responsable m'a dit tout à l'heure que la conférence est enregistrée.
Oui.
Elle sera sur le site de l'Espace.
Oui. Alors,
sous une quinzaine de jours.
Donc je ferais mieux de ne pas trop persifler. Donc, pour commencer, il faut rappeler que les maladies infectieuses restent probablement la première cause de mortalité dans le monde. Alors, il s'agit là de statistiques qui datent d'une dizaine d'années. Ça a un petit peu évolué. Il semble quand même que ce soit maintenant devenu, derrière les maladies cardiovasculaires et cancéreuses, la deuxième cause, qui est un petit peu le cas dans nos pays, hein, qui sont dits développés. Mais l'infection reste quand même un des principaux ennemis de l'espèce humaine. Et pratiquement, un cas de mortalité sur 3 est dû à une maladie infectieuse. Et donc, les 7 maladies infectieuses ou un type d'infection qui sont responsables de la mortalité dans l'espèce humaine figurent ici. Il y a les maladies infectieuses respiratoires, par exemple la grippe, les pneumonies, les choses comme ça, les maladies diarrhéiques qu'on connaît également chez nous, la rougeole, hein, qui est une maladie tout à fait d'actualité aujourd'hui, y compris dans le Poitou-Charentes, la tuberculose, hein, qui cause infiniment plus de dégâts que d'autres maladies infectieuses qu'on a un peu tendance à penser être contrôlées, ce qui n'est pas le cas, l'infection par le VIH, alors bien sûr, ça ne concerne pas directement, enfin, ça nous concerne, mais c'est dans des dans les pays du Sud que la problématique est particulièrement importante, le paludisme, enfin, qui ne nous concerne pas encore, bien que toutes les conditions climatiques soient actuellement réunies pour que le paludisme réapparaisse, en particulier dans le sud de la France. Alors, j'aime beaucoup cette diapositive parce qu'elle est pleine d'enseignements. Donc, il s'agit d'une statistique concernant la mortalité par les maladies infectieuses aux États-Unis au XXe siècle. Alors, on est au XXIe, hein. Donc c'est le siècle précédent. Je vous rappelle que c'est à la fin du XIXe siècle que les grandes mesures prophylactiques ont été inventées et mises en œuvre de façon importante dans tous les pays de la planète. Et ce qu'on constate sur cette courbe, c'est que la mortalité par maladie infectieuse diminue de façon très régulière, hormis cet accident qui est lié à la grippe espagnole, hein, où il y a eu beaucoup de... qui a eu beaucoup de morts. Et c'est une des raisons pour lesquelles les pouvoirs publics sont très inquiets s'il y avait une nouvelle pandémie grippale. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la mortalité par maladie infectieuse diminue régulièrement pour atteindre un plateau qui doit être ce qui est tout à fait incompressible à partir des années 1950, hein, grossièrement. Alors, il y a une toute petite remontée à la fin, là, qui est liée à l'infection par le VIH, hein, par le virus du sida.
Alors, ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'entre 1940 et 1960, c'est l'apparition des antibiotiques. Alors, sur le marché. Et comme vous l'a fait remarquer M. Bec-Giraudon, vous voyez que ça n'a pas eu une influence aussi spectaculaire que la prévention.
C'est le commentaire important qu'il faut faire, c'est qu'en réalité, l'influence des anti-infectieux, et en particulier des antibiotiques dont tout le monde se gargarise, est relativement modeste sur le contrôle des maladies infectieuses, et que ce qui a permis le contrôle, ce sont toutes les mesures de prévention, de santé publique, hein, quelle qu'elle soit individuelle ou collective. Et ça, on le voit très très bien dans les pays dits du tiers-monde, hein, où ils ont des antibiotiques, parce que ça, l'industrie sait leur vendre, mais ils n'ont pas les structures de santé publique et de prévention. Hein, et donc ils continuent à mourir de maladies infectieuses. Donc, quand on dit que les antibiotiques, ce n'est pas automatique, finalement, c'est un bon slogan, hein, parce que ce n'est pas ça qui permet le contrôle de la maladie infectieuse. Alors, on peut penser que prévenir une maladie infectieuse, c'est important en termes de mortalité immédiate. Mais en fait, j'ai souvent l'audace de dire que toutes les maladies sont infectieuses, car il y a beaucoup, beaucoup de maladies dont la cause est en fait une infection chronique. Hein, Et donc maintenant, on sait que une bactérie comme Helicobacter pylori, enfin peu importe, est responsable de maladies non infectieuses comme l'ulcère et le cancer de l'estomac. Et puis il y en a bien d'autres. Le papillomavirus humain est responsable, chez la femme en particulier, de cancer des organes génitaux. Ça veut dire que lorsqu'on va trouver un moyen de prévenir l'infection par ces différents germes qui figurent ici, on aura non seulement une action contre la maladie infectieuse elle-même, mais contre ses conséquences à long terme, qui peuvent être des conséquences en particulier de maladies tumorales. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un agent pathogène pénètre dans l'organisme? Il y a ce qu'on appelle une infection. L'infection, en fait, c'est l'expression de l'infection, c'est la coïncidence des dégâts que cause l'agent infectieux avec ses propres moyens d'action, et puis des défenses qu'on lui oppose. Parce qu'il faut bien se dire que si l'espèce humaine était sans... Enfin, si tous les humains étaient sensibles à toutes les infections, l'espèce humaine n'aurait pas pu persister. Il y a toujours, dans une collectivité, vis-à-vis d'un agent infectieux, un pourcentage de 5 à 10% des gens qui vont résister naturellement à l'infection. Et donc, un des objectifs de la vaccination, c'est de permettre à un individu de développer une protection active et spécifique vis-à-vis d'un agent infectieux. Donc c'est un moyen essentiel de la prévention des maladies infectieuses. C'est même un moyen, pour un certain nombre de maladies infectieuses, le seul moyen de les traiter, puisqu'on n'a pas de traitement à leur opposé, en particulier dans les maladies virales. Donc si on veut faire quelque chose, il faut essayer de se protéger, et le vaccin, c'est le moyen de cette protection. Donc, la technique de la vaccination n'est pas sortie comme ça de l'esprit brillant de Louis Pasteur, par exemple. Il y avait des observations fort anciennes qui avaient mis en évidence le fait qu'une infection guérie protège de la maladie. Et donc, l'idée, ça a été, par exemple, par le biais de ce qu'on appelait la variolisation, autrefois, et on utilisait des souches, ou ce qu'on pense, des souches de malades qui n'étaient pas morts. Donc, on imaginait que ce qu'on administrait était probablement moins agressif que le germe qui déterminait la maladie. Et donc, on vaccinait pour mimer une infection. Donc, c'est tout à fait le principe de ce qu'on appelle la variolisation. Donc, vous allez voir sur la diapositive suivante qu'on l'a fait remonter à 1721. Mais déjà, les Chinois, il y a 2 ou 3 000 ans, ils avaient déjà inventé beaucoup de choses, y compris cette technique. Puis après, il y a eu, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, les découvertes scientifiques qui ont donné un substrat théorique à ces phénomènes, et c'était donc la découverte de l'immunologie. À partir du moment où on a compris un petit peu comment l'organisme se défendait, eh bien, on a pu mettre en œuvre cette vaccination de façon, disons, plus scientifique, en administrant des germes ou des fragments de germes à des individus qui n'avaient pas fait la maladie, et donc on faisait une espèce de variolisation ou de vaccination artificielle qui aboutissait à une protection. Bon, il est traditionnel de dire chez nous que le premier vaccin, ça a été à partir d'un virus animal, la vaccine. Donc c'était Jenner en 1795 qui avait observé par analogie, c'est un raisonnement analogique, que les lésions certaines lésions cutanées chez les animaux, les vaches en particulier, étaient très semblables aux lésions de la variole. Donc il en a déduit que probablement la chose qui en était responsable était la même. Et il s'est dit qu'en inoculant ce pu des pustules de cowpox à un être humain pouvait éventuellement le protéger contre la maladie humaine. C'était le but de la variolisation, hein, puisque là, c'était des pustules humaines qu'on utilisait. Le problème de la variolisation, c'est qu'il y avait un pourcentage non négligeable d'individus qui faisaient la maladie authentique et qui en mouraient.
Donc là, vous avez l'origine étymologique du mot vaccination. Vaccination, l'origine, ça vient de vache, tout simplement. La vaccine, comme vous l'a dit le professeur Beck, est une maladie très proche de la variole qui touchait les mamelles des vaches avec des pustules. Et c'est pour ça qu'on l'a baptisé vaccine. Et comme le premier vaccin était celui contre la variole, on les a toutes baptisées après vaccination. C'est comme vitamine. Quand vous dites vitamine, en fait, c'est l'amine, une amine, c'est-à-dire un groupement azoté, c'est l'amine de la vie. Parce que la première vitamine B1 était une thiamine. Mais maintenant, toutes les vitamines, même qui n'ont pas de groupement amine, s'appellent des vitamines.
Donc, la plupart des vaccins sont en fait des vaccins viraux, on va y revenir. Donc voilà une chronologie qui rappelle les dates à laquelle sont apparus les principaux vaccins antiviraux qu'on utilise actuellement, avec bien sûr le vaccin antirabique atténué inactivé qui avait inventé Louis Pasteur. On se rend compte quand même que l'essentiel des progrès sont arrivés au XXe siècle et que ça continue. Donc, il y a des vaccins vivants et dits atténués et des vaccins tués. C'est-à-dire que l'agent qu'on injecte est soit vivant, soit tué. Et donc, les virus animaux de la vaccine peut être atténué physiquement. On parlera, pour ce qui concerne le virus rabique, c'est le passage répété sur des tissus nerveux. Alors à l'époque, c'était des tissus nerveux de lapin, à l'époque de Louis Pasteur, hein, en 1885. Ensuite, on a inventé le passage sur les œufs, puis in vitro avec le BCG, sur les cultures cellulaires. Donc, ceci illustre que ça va être dit tout au long de l'exposé, que les progrès des techniques ont permis l'élaboration de vaccins de plus en plus sophistiqués, ce qui veut dire de plus en plus efficaces et de mieux en mieux tolérés. Parce que c'est vrai que très vite, ce qui est apparu, c'est que la vaccination avait un certain nombre d'écueils, en particulier d'effets secondaires, surtout avec les vaccins vivants, puisqu'en fait, c'est un agent infectieux qui a perdu ses caractères de virulence, mais a gardé ses capacités à faire fabriquer par l'organisme auquel on l'administre des anticorps qui vont le protéger ultérieurement. Alors, le deuxième grand groupe sont donc les vaccins inactivés. Soit il s'agit d'organismes entiers tués, c'est-à-dire que là, il s'agit souvent de vaccins bactériens, hein, typhoïdes, choléra, coqueluche à germes entiers. La caractéristique principale de ces vaccins, c'est leur très mauvaise tolérance. Alors, je pense que l'assistance est relativement jeune, tout à fait jeune dans la salle, mais des pré-vieillards comme moi ont bénéficié, à l'époque où c'était obligatoire, de la vaccination contre la typhoïde avec des vaccins entiers tués. Ça vous couchait pendant 8 jours. Hein. Ça donnait 40 de fièvre, une réaction érythémateuse épouvantable. On était très, très, très mal. Hein. De même que le vaccin anticholérique que j'étais obligé de me faire lorsque j'étais médecin coopérant en Algérie parce qu'il y avait des épidémies de choléra à la Mecque et que donc on était susceptible d'être en contact, ben c'était extrêmement mal toléré. Hein. En plus, c'était totalement inefficace, on le sait maintenant. C'est pas grave. Donc, c'est pas une très bonne technique. Ensuite, il y a eu des anatoxines. Donc là, ce sont des germes qui sont pathogènes ou qui déterminent des symptômes par le biais de la sécrétion de toxines. Donc c'est la diphtérie, le tétanos, dont vous avez entendu parler. Donc là, ça s'est quand même nettement mieux toléré. Et puis il y a des fragments antigéniques, c'est-à-dire qu'on découpe le virus ou le microbe et on extrait ce qui est potentiellement le mieux à même de faire fabriquer des anticorps par l'organisme. Donc là, c'est encore mieux toléré. Et puis après, il y a d'autres possibilités, les polysaccharides, les protéines, j'insiste pas. Donc, on est passé des vaccins vivants qui sont pas trop mal tolérés dans l'ensemble, mais qui ont des risques de réapparition de la maladie. Hein, par exemple, on en reparlera pour la poliomyélite, à ces vaccins inactivés. Et là, plus on va vers la structure qui fait fabriquer des antigènes, c'est-à-dire une structure où il n'y a pas trop d'antigènes différents, mieux c'est toléré et plus c'est efficace. Et donc, les progrès de l'immunologie, de la biochimie, des biotechnologies s'accompagnent d'une multiplication rapide, vous allez voir, du nombre de vaccins disponibles, d'une modification de leur conception, de leur mode de production. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Alors, il y a un certain nombre de stratégies nouvelles qu'on verra tout à l'heure, je passe. Et donc, voilà, après cette introduction peut-être un peu longue, ce dont on va vous parler, le présent des vaccinations, les bienfaits et résultats attendus de celles-ci, la pratique, l'opinion et sur les vaccinations, qu'est-ce qu'en pensent les gens, est-ce qu'il y a eu des enquêtes, et puis qu'est-ce qu'on fera dans le futur. Alors, le présent des vaccinations, ça va être un peu redondant avec ce que j'ai déjà dit, c'est que concernant les vaccins à usage humain disponibles, hein, parce que je parle à usage humain, mais il y a des vaccins pour les animaux également, qui sont parfois un peu les mêmes que les nôtres. Donc on a soit des vaccins vivants atténués. Ces vaccins vivants atténués sont obtenus à partir de souches sauvages qui sont atténuées de façon artificielle ou au laboratoire. Donc je rappelle le vaccin de la rage hein, qu'on repique 15 ou 20 fois sur des moelles épinières de lapin et qui à la fin perd ses capacités d'agressivité mais garde ses capacités de faire fabriquer des anticorps. Et donc, ces vaccins sont surtout viraux. Donc, il y a le vaccin antipoliomyélitique par voie orale, rougeole, rubéole, oreillon, varicelle, et puis d'autres qui sont en développement, les vaccins contre l'adénovirose. Bon, c'est les vaccins du rhume, quoi, en quelque sorte. Et puis, un vaccin que ceux qui voyagent connaissent bien, le vaccin contre la fièvre jaune. Donc il y avait un vaccin de ce type qui était le vaccin antivariolique, hein, donc le vaccin, le virus de la vaccine de la vache, qui lui n'est plus obligatoire, n'est plus utilisé aujourd'hui parce que, on le verra tout à l'heure, la variole est une maladie qui est censée avoir disparu à la surface de la planète. Et puis il y a des vaccins bactériens, le BCG dont l'obligation vient d'être levée, la typhoïde, par voie orale, c'est-à-dire par voie par la bouche, hein, donc qui n'est pas disponible en France. Parce que là, il y a aussi des choses extrêmement curieuses, hein, c'est la disponibilité des vaccins en fonction des pays, des AMM et des usages locaux. Autre vaccin à usage humain disponible, donc les vaccins inertes inactivés, qui peuvent être bactériens, donc qui sont soit complets, donc c'est l'ensemble du corps bactérien ou viral qui est administré. Et donc je vous ai expliqué que ces vaccins étaient généralement, pour en tout cas les vaccins bactériens, globalement assez mal tolérés. Mais ces vaccins inactivés complets, c'est le vaccin contre la poliomyélite injectable, le vaccin antigrippal qu'un certain nombre d'entre nous sont obligés de, pour lesquels c'est recommandé chaque année. Voilà. Donc ça c'était les corps toujours dans les vaccins inertes, inactivés. Il y a ce qu'on appelle les fractions antigéniques, ça j'ai déjà dit. Et donc là il y a un certain nombre des anatoxines, donc c'est les vaccins contre les toxines sécrétées par des bactéries, tétanos, diphtérie, et plus difficile à obtenir parce que c'est pas produit partout, le vaccin contre le botulisme, qui est une maladie un petit peu particulière. Alors, les vaccins polysaccharidiques, hein, alors là, il y en a quand même certains qui ont beaucoup d'intérêt, ceux qui vaccinent, qui protègent contre le méningocoque ou contre le pneumocoque, l'hémophilus, ils ont vraiment, en termes de santé publique, une importance tout à fait considérable. Et puis, il y a le vaccin contre la typhoïde, qui a remplacé l'ancien vaccin préparé à partir de corps bactériens entiers tués, et c'est ce qu'on appelle le Tifimvi en dénomination commerciale, et qui protège moins longtemps, hein, mais avec des conditions de tolérance, tolérance bien meilleure. Alors après, on peut faire des vaccinations avec ce qu'on appelle les sous-unités, c'est-à-dire des morceaux de virus ou de bactéries, et là, il y a beaucoup de vaccins, je ne vais peut-être pas y insister. Ce qu'il faut bien noter, c'est que ce domaine des fractions antigéniques, c'est vraiment un des avenirs de la vaccination. On fait de moins en moins de vaccins entiers tués, et on essaie toujours de trouver les fractions qui permettent d'avoir la meilleure efficacité au prix de la meilleure tolérance. Alors, la question, c'est à qui va-t-on administrer ces vaccins ? Vous voyez qu'il y en a énormément et qu'en réalité, compte tenu des calendriers, des nécessités d'injection et de réinjection, on pourrait tous les matins chez le médecin généraliste, qui en serait très content, hein, pour se faire vacciner. Donc on a essayé de rationaliser un petit peu ça et de dire il y a certains vaccins qui sont absolument impératifs et d'autres dont l'usage peut être plus restreint ou s'appliquer à certains cas. Donc on a ainsi défini des vaccins qui sont d'usage généralisé. Et donc là, vous reconnaissez ceux que tout le monde devrait normalement avoir, diphtérie, tétanos, polio, vivant ou inactivé. Alors là, il y a des discussions théoriques, lequel vaut mieux. On ne va peut-être pas y rentrer. Donc ça, c'est des vaccinations obligatoires. La coqueluche est hautement recommandée, de même qu'au rougeole, rubéole et oreillon. Et puis l'hémophilus influenzae de type B. Donc ça, c'est une prévention vis-à-vis des méningites. Et enfin, l'hépatite B, là, un vaccin qui donne chez nous, c'est une exception hexagonale, une fois de plus, lieu à de nombreuses discussions. Alors, ces vaccins, ils peuvent être associés entre eux. Ça, c'est important. Ça permet de diminuer le nombre d'injections. Par contre, les vaccins qui sont faits à partir de corps bactériens entiers tués sont difficilement associables aux autres. On peut associer les fractions. Par contre, si vous vaccinez quelqu'un, par exemple, par le vaccin antityphoïdique ou par le vaccin anticholérique, à partir de corps bactériens antitués, vous ne pouvez pas revacciner contre un autre, utiliser un autre vaccin pendant une quinzaine de jours, hein, parce que ça, l'immunité est un petit peu de moins bonne qualité. Alors, toujours dans les vaccins d'usage généralisé, il y a des cas particuliers. Donc, la vaccination antivariolique a été abandonnée depuis l'éradication mondiale de la variole. Alors, j'ai mis décrété, c'est un terme choisi par l'OMS, hein, puisqu'on sait très bien qu'il y a du virus de la variole qui est détenu dans un certain nombre de laboratoires, en particulier militaires ou à visée bioterroriste, et que des attaques sont possibles avec cet agent infectieux. Et donc, les pouvoirs publics en France, comme en Europe d'ailleurs et dans d'autres pays, ont des stocks de vaccins antivarioliques congelés qui pourraient être utilisés pour vacciner en cas de besoin l'ensemble de la population française. Alors, je vous signale que les procédures, les protocoles prévus envisagent de vacciner 64 millions de Français en 15 jours. Bon, le vaccin antipoliomyélitique, la prépondérance du vaccin oral est discutée parce que l'efficacité est médiocre en pays tropical. Ce sont des vaccins vivants et donc ils supportent mal la chaleur. C'est pareil pour la rougeole. Et puis surtout, c'est un vaccin vivant, donc on l'a atténué en le repiquant, mais comme il reproduit le cycle naturel chez un individu donné tout en le vaccinant du virus, le virus va être excrété et peut-être aller recontaminer quelqu'un d'autre de l'entourage. Et donc, à ce moment-là, on a des poliomyélites vaccinales. Donc, on avait observé le cas à Poitiers, d'une maman qui avait vacciné son enfant donc avec
le Sabine
sur le goutte de sucre, et qui a fait une méningite virale. Et dans le liquide céphalo-rachidien, il y avait le virus de type 3 qu'elle s'était inoculée. Et puis récemment, aux États-Unis, il y a eu des cas de paralysie, enfin de poliomyélite vaccinale chez des gens qui n'avaient pas été en contact avec des gens qui avaient été récemment vaccinés. Ce qui montre que comme c'est un vaccin vivant, il suit sa vie, il est excrété dans le milieu extérieur et puis il reproduit le cycle naturel du vaccin sauvage. Donc actuellement, l'intérêt du vaccin oral, c'est sa facilité d'administration, en particulier dans les vaccinations de masse dans les pays tropicaux. Puisque là, il suffit de donner une goutte de vaccin sur un morceau de sucre et on vaccine. Alors que sinon, il faut avoir une seringue injectée, c'est infiniment plus complexe. Alors, donc le vaccin contre la rougeole, hein, qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui, il avait aussi un inconvénient, le vaccin vivant, il était sensible à la chaleur. Ils ont réussi à le mettre plus thermostable. Il y a le vaccin anticoqueucheux classique, donc qui était corps bactérien anti-étué. Alors lui, il était très mal toléré. Et vous allez voir les conséquences de cette mauvaise tolérance tout à l'heure. Donc, et du coup, on a inventé un vaccin acellulaire avec des fractions, qui est celui qu'on utilise actuellement, et qui est tout aussi efficace et beaucoup mieux toléré. Donc le BCG, donc son rôle a été remis en cause, hein, puisque maintenant l'obligation vaccinale a été levée. Il y a des recommandations qui font qu'on le préconise dans un certain nombre de cas. Alors d'autres vaccins sont, à côté des vaccins généralisés et de leurs cas particuliers, sont à usage restreint. Et donc là, ils vont s'adresser à des risques géographiques, c'est essentiellement les vaccinations du voyageur. C'est-à-dire vous allez dans un pays dans lequel circule un germe, et là, vous êtes obligé de vous vacciner parce que c'est la seule façon de se protéger. Donc le vaccin contre la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, les encéphalites ou les hépatites A et B. Ça peut être réservé à des situations pathologiques, des situations de maladie, le vaccin contre la varicelle et le vaccin contre le pyocyanique, j'en parle pas trop, c'est chez les brûlés, c'est un cas extrêmement particulier. Puis après, vous avez des vaccinations professionnelles, hein, donc en cas de contact avec des animaux, la brucellose, ça n'existe pratiquement plus. La rage, hein, les vétérinaires sont vaccinés contre la rage. La leptospirose, qui est une maladie à laquelle sont exposés les éboueurs ou les pompiers, égoutiers. Par les égoutiers, les choses comme ça. Et donc là, les municipalités les vaccinent. Et puis, il y a le problème, la problématique des personnes âgées. Alors, donc voilà le panel de tous les vaccins qu'on peut utiliser. Ils ne figuraient même pas tous là. À quoi ça sert de se faire percer tous les jours? Est-ce que ça sert à quelque chose? Apparemment, d'après la courbe que je vous ai montrée, a priori, oui. Il peut y avoir, avec une politique vaccinale bien conduite, trois types de situations. La première, qui est la plus favorable, c'est l'éradication. L'éradication, c'est la réduction permanente à zéro de l'incidence mondiale d'une infection causée par un agent déterminé grâce à une stratégie délibérée. Donc, ça implique une politique vaccinale extrêmement active et une surveillance tout à fait rigoureuse. Donc ça, c'est relativement possible chez nous, par exemple en Somalie aujourd'hui, ou en Éthiopie, ou dans d'autres pays, au Rwanda, ou chez les Tamouls, là-bas. C'est pas sûr que ça soit aussi simple à faire. Pour qu'une maladie infectieuse puisse être éradiquée, c'est-à-dire que le germe est totalement disparu de la surface de la planète, qu'il ne soit plus présent, il y a une condition absolue, c'est que le réservoir soit exclusivement humain. Si vous avez un autre endroit où le germe peut persister, on n'arrive pas à éradiquer. Il y a relativement peu de maladies infectieuses dont le réservoir est exclusivement humain. Donc ça a été réalisé pour la variole. Le dernier cas de variole a été observé en 1977 en Éthiopie, justement. 3 ans après, on n'avait observé aucun autre cas de variole. Donc c'était un peu un pari quand même, hein, parce que savoir ce qui se passe au fin fond d'un certain nombre de territoires, ce n'est pas absolument évident. Comme on sait que la durée de vie du virus, qui est spécifiquement humain dans le milieu extérieur, n'est pas supérieure à 3 ans, ça voulait dire qu'il n'y avait plus de virus de la variole. Et donc, on a décrété la disparition, l'éradication de la maladie. D'autres maladies peuvent être potentiellement éradiquées. La poliomyélite, c'est en cours d'éradication, avec un certain nombre d'accidents de parcours. Et la rougeole, qu'on a du mal à éradiquer, parce que pour que la rougeole puisse être éradiquée, il faut qu'on atteigne pratiquement une couverture vaccinale de 100%. Alors le virus de la rougeole, pour l'anecdote, c'est un virus du chien qui a été transmis à l'homme lorsque les hommes ont apprivoisé les chiens il y a à peu près 7000 ans lorsqu'ils sont devenus sédentaires. Ils sont passés de l'étape de chasseur-cueilleur à l'étape d'agriculteur. Alors deuxième possibilité, c'est l'élimination. Donc c'est la réduction à zéro de l'incidence d'une maladie dans une zone géographique déterminée grâce à une stratégie délibérée. Donc ça implique la surveillance et la prévention continue du germe qui continue à circuler dans d'autres régions. Donc ça veut dire que le germe n'est pas éradicable au sens transparent précédent. Mais par contre, on peut empêcher qu'il sévisse dans une région donnée. Alors un exemple, c'est la rage. Il y en a d'autres hein, chez nous. Et en fait, c'est un exemple qui concerne plus le monde animal, puisque chez nous, la rage était transmise par les renards qui ont été vaccinés par hélicoptère, par largage de boules de viande dans laquelle était un virus atténué. Donc les renards mangeaient ces boules de viande et se vaccinaient contre le virus de la rage. Donc ça a permis de faire disparaître la rage qui était arrivée quasiment aux portes de Paris il y a dans les années... dans les années 90 à peu près, et en 2000, on a décrété que la rage, la France était un pays indemne de rage, à quelques nuances près, parce qu'on continue d'importer des animaux enragés chez nous. Et puis, il y a l'émergence de la rage des chauves-souris. Alors, troisième cas moins favorable, parce qu'il implique, comme le cas précédent d'ailleurs, une surveillance rigoureuse et une stratégie vaccinale constante. C'est la réduction, l'endiguement, donc le contrôle d'une maladie qui diminue d'incidence et de prévalence et donc de mortalité grâce toujours à une stratégie délibérée. Donc là, il faut une action permanente. On ne peut pas tuer le germe, on ne peut pas l'éradiquer. Donc il faut vacciner les sujets réceptifs. Et les exemples les plus caricaturaux, c'est le tétanos et la diphtérie. Donc pourquoi est-ce que il y a ces trois types de résultats possibles d'une politique vaccinale, eh bien, ça tient à trois phénomènes. Ce qu'on appelle la physiopathologie de la maladie, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui aboutissent à déterminer des symptômes chez l'individu qui est infecté, du réservoir de germes. Et donc, le réservoir de germes, c'est le gîte dans lequel se trouve le microbe ou le virus. C'est le gîte auprès duquel on va aller se réinfecter. Et donc, si le réservoir de germes est l'homme, eh bien, la maladie disparaît. Si c'est un réservoir animal ou un réservoir, par exemple, le sol, hein, comme pour le germe du charbon, il peut pas ou le tétanos, ça ne peut pas disparaître. Et enfin, ça dépend du mode de transmission. Donc, quels sont l'OMS a élaboré des stratégies qui visent, par le biais d'un ce qu'ils appellent le programme élargi de vaccination, à éradiquer les maladies infectieuses qu'ils sont potentiellement et à contrôler les autres. Le problème, c'est qu'il faut un système de surveillance extrêmement strict. Et donc, vous imaginez assez volontiers que les situations sont totalement hétérogènes à la surface du globe en fonction des pays. Et que même dans des pays comme les nôtres, qui sont plutôt relativement efficaces en France en termes de santé publique, eh bien, des épidémies peuvent survenir. Et là, l'épidémie de rougeole qu'on constate actuellement chez nous, ou les nouveaux cas de coqueluche chez les adultes, nous démontrent qu'on n'a pas été suffisamment vigilant, hein, que la politique a été mal conduite. Alors, c'est d'autant plus difficile que lorsqu'on vaccine, on joue un peu avec la vie. C'est-à-dire que le virus ou la bactérie qui infecte, il a son cycle épidémiologique, il détermine les symptômes. Et lorsqu'on vient troubler par la vaccination, c'est-à-dire en immunisant des gens qui n'ont pas été infectés par le virus sauvage ou la bactérie sauvage, eh bien, on va bouleverser ou changer l'histoire naturelle. Donc voilà quelques diapositives qui illustrent à quoi ça sert les vaccinations. Voilà une maladie qui s'appelle la diphtérie, qui est une maladie tout à fait redoutable, hein, qui entraînait jusqu'à 100 000 décès, 10 000 plus 10 décès en 1945 en France, hein, et qui a disparu grâce à la vaccination. Elle ne persiste que dans des groupes qui sont, ou des collectivités qui sont, pour des raisons diverses, hein, qu'on peut respecter, mais enfin opposé à la vaccination. Donc là, c'est un peu la même chose. Si on regarde cette courbe, son intérêt, c'est de montrer qu'à l'échelon de la planète, ce qu'on a observé en France, c'est aussi reproduit, mais on observe ici un accident dans les années 92 à 96 qui illustre parfaitement ce qui se passe lorsqu'on arrête la politique vaccinale. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans l'ex-Union soviétique, où les structures de santé publique, en tout cas de dispensaires et de vaccination, étaient tout à fait rigoureuses et satisfaisantes au temps de l'Union soviétique. Et puis, il y a eu donc la chute du mur de Berlin et un certain nombre de bouleversements politiques et sociaux qui ont fait que la politique vaccinale s'est totalement relâchée. Et le résultat immédiat, ça a été la réapparition de la maladie, puisque c'est une maladie qui est simplement contrôlable et non éradicable. Ça veut dire que si en France, on arrêtait de vacciner contre la diphtérie, on aurait ce type de courbe. Et on a eu toute proportion gardée ce type de courbe, puisque c'est là qu'on a découvert qu'il ne suffisait pas de se vacciner contre la diphtérie jusqu'au service militaire, qui existait encore à l'époque, mais qu'il fallait se vacciner tout au long de la vie, parce que des gens qui étaient au-delà de la quarantaine et qui sont allés en Union, en Russie, la communauté des États indépendants, ils appelaient ça à l'époque, dans ces années-là, pour faire des affaires ou pour du tourisme, ont contracté la maladie. Donc on a vu des cas de diphtérie chez des adultes français ou européens qui n'avaient pas été revaccinés. Et c'est pour ça que maintenant on préconise la revaccination contre la diphtérie tous les 10 ans. Parce que si vous allez vous promener en Afrique, si vous allez vous promener au Moyen-Orient, si vous allez vous promener dans un certain nombre de régions, le virus, enfin la bactérie continue de circuler. Donc c'est extrêmement important. Et ça, c'est l'illustration de ce qui se passe quand on arrête. Alors, le problème, c'est que les gens, à ce stade-là, ils oublient la maladie et ils voient les inconvénients de la vaccination, les douleurs, les quelques effets secondaires. Et voilà ce qui se passe si on arrête. Il s'est passé exactement la même chose pour la coqueluche. Voilà la disparition de la coqueluche en France. C'est une maladie qui était quand même mortelle, hein, pour, en particulier chez les nourrissons. Et là, j'ai pas tant de plaques là-dessus, mais la coqueluche, la vaccination par le vaccin entier avait été abandonnée en Angleterre parce qu'il y a eu des campagnes médiatiques à la suite d'un certain nombre de morts subites d'enfants, de nourrissons après la vaccination ou en coïncidence avec la vaccination. Et très rapidement, en 3 ou 4 ans, ils ont eu plusieurs centaines d'enfants qui sont morts de la coqueluche parce qu'ils avaient cessé de vacciner. Bon, c'est pareil pour les méningites. La poliomyélite, hein, c'est une maladie qui faisait extrêmement peur. Moi, je me rappelle, ma mère avait horreur. J'allais me baigner dans les rivières l'été parce qu'on contractait la poliomyélite. Il y avait des épidémies. Et la poliomyélite, c'est une maladie tout à fait redoutable, qui a des séquelles tout à fait épouvantables. Et vraiment, le gars qui a inventé le vaccin, c'est ce qu'on peut dire un bienfaiteur de l'humanité. Chez nous, elle n'existe plus. Comme le réservoir est spécifiquement humain, normalement, elle est potentiellement éradicable. Et donc, voilà les progrès dans l'éradication de la poliomyélite, puisqu'on est passé de 350 000 cas à 7 000 en pratiquement une dizaine d'années. Donc, elle a disparu de beaucoup de continents. Elle persiste quand même en Afrique. Et là, il y a eu des couacs, je veux dire, inspiré par des motifs idéologiques, politiques et religieux, en particulier au Nigeria, qui ont fait que l'obligation vaccinale a été abandonnée. Et une maladie qui avait pratiquement disparu dans ces régions d'Afrique qui sont en rouge, ici, a repris son expansion parce que des politiques imbéciles ont dit c'est quelque chose d'abominable, quoi. Donc voilà. En 2005, hein, vous voyez, c'est le Nigeria qui est ici. Alors le Tchad, qui est juste à côté, a atteint. Bon, ça ne vous étonnera pas que l'Éthiopie, la Somalie soient atteints. Hein. C'est des pays où on voit tout de suite que les zones troublées de la planète sont celles où les maladies infectieuses persistent. D'ailleurs, là, vous voyez, c'est le Pakistan et le Cachemire.
La zone intertropicale, ouais. Quoi, schématiquement.
Et donc, si on fait une estimation de la mortalité évitable en ayant une politique vaccinale correcte, on arrive quand même à 3 millions d'individus, ce qui n'est pas négligeable. Alors, une maladie contagieuse sous l'effet de la vaccination, je vais aller assez vite. Donc, au départ, il y a un effondrement du nombre de cas, la maladie disparaît. Donc, les gens oublient qu'elle pouvait tuer. Alors, ensuite, on va se retrouver, parce que la politique vaccinale n'est pas bien suivie en présence d'une population polymorphe, hein, avec une espèce de patchwork. Il y a des sujets qui sont bien protégés, c'est les vaccinés récents. Il y a tous ceux qui ont été vaccinés, mais qui sont plus protégés parce que l'immunité a disparu. Donc ça, c'est le cas, par exemple, de la diphtérie. Et puis, des anciens malades qui perdent l'immunité naturelle parce que le germe n'est plus présent. Et donc, autrefois, par exemple, la typhoïde, on savait que ça arrivait surtout chez les enfants, les adultes jeunes, parce qu'après, les gens se revaccinaient en buvant de l'eau contaminée, tout bêtement. Et puis donc, le vieillissement des sujets mal protégés entraîne un certain nombre de phénomènes un peu particuliers. La maladie va survenir beaucoup plus tard. Et il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une maladie infectieuse de l'enfance survenant chez un adulte est beaucoup plus grave chez l'adulte. Il y a des persistances de foyers ou de poches épidémiques parce que le germe persiste. Et puis après, on a l'aspect clinique de la maladie qui se modifie et qui en rend le diagnostic difficile pour des médecins qui ne sont pas initiés parce qu'ils ne les ont pas vus, hein, ou ne les connaissent plus. Donc c'est un petit peu... Je passe la parole à Bernard parce que c'est lui le praticien.
Alors... Après toutes ces informations fort intéressantes, Nous allons passer à des choses un peu plus concrètes de tous les jours. Donc la pratique de la vaccination. Alors d'abord les voies d'administration. Donc on a parlé de la voie orale il y a quelques instants, qui était réservée essentiellement à une souche sabine du vaccin antipoliomyélitique, mais qui est abandonnée depuis une vingtaine d'années pour les raisons qu'on vous a citées. Il y a eu aussi des voies orales pour certains pseudo-vaccins. Là, c'était des lysas bactériens qu'on faisait pour protéger des infections respiratoires saisonnières, genre Biostim, Rebomunil, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces produits-là. Enfin, ce n'est pas vraiment des vaccins, mais enfin, c'était censé destiner à stimuler l'immunité contre des bactéries fréquemment rencontrées dans ces infections saisonnières. Et tout ça, ça a été abandonné aussi. Donc la voie royale, si on peut dire, c'est la voie sous-cutanée ou intramusculaire, qui représente la voie pour la très grande majorité des vaccins. Donc, sous-cutané, comme vous le savez, c'est sous la peau, dans le tissu graisseux. Donc, ça se fait essentiellement sur la face externe du bras, là, au niveau de la région deltoïdienne, ou dans le haut de la cuisse, la région cuisse-fesse. Intramusculaire, ça peut se faire aussi. Si on pique assez profondément au niveau du bras, on arrive au niveau du deltoïde, donc on est dans le muscle. Si on pique un peu plus profondément dans la fesse, on est aussi dans le muscle. Les autres voies, il y a la voie intradermique qui est réservée essentiellement au BCG. Alors la voie intradermique est très délicate parce que, comme son nom l'indique, elle doit être faite dans le derme, pas sous le derme. Si vous allez trop profond, vous êtes en sous-cutané, donc vous avez tout faux. Donc le derme, c'est en fait le biseau de l'aiguille. Donc il faut faire ça avec beaucoup de soin, enfoncer juste le biseau de l'aiguille, ça fait peut-être un millimètre, même pas, et injecter doucement la valeur d'environ un dixième de millilitre. Et quand l'injection est réussie, vous devez avoir une petite cloque, une petite flictaine, une petite papule qui signe le succès de votre technique. Sinon, si vous ne voyez rien, c'est que vous avez piqué trop profond et vous avez fait les choses mal. Donc ça, c'est la voie intradermique. Il y avait aussi autrefois, pour les premiers vaccins, notamment la variole et la tuberculose, le BCG, la scarification. La scarification qui était faite à l'aide d'une lancette. C'était comme une petite plume, une plume à écrire métallique affûtée. Et donc, on réalisait des scarifications comme des griffures. Alors, c'est pareil, pas trop profondes parce qu'il ne fallait pas faire saigner. Vraiment, c'était au dixième de millimètre près, de façon à obtenir une petite rosée sanglante. Et on déposait le vaccin ou même on scarifiait à travers le vaccin. C'est le vaccin antivariolique, le vaccin BCG des années 50-60. Et les plus anciens ont encore des traces sur le bras ou sur la cuisse de ces fameux vaccins. On faisait également aussi ce qu'on appelait les QT-réactions à l'époque, c'est-à-dire les tests tuberculiniques par aussi scarification dans les années 50-60. Tout ça, c'est abandonné. Il y a eu la période pour le vaccin antituberculeux pour le BCG du Monovax. C'était une petite bague avec des petites pointes en plastique comme une petite brosse imprégnée de vaccin et on faisait ça par ce qu'on appelait multiponcture. Alors depuis 3 ans, ce vaccin n'est plus commercialisé. Le seul vaccin utilisable pour la tuberculose, c'est le vaccin par voie intradermique, qui, entre parenthèses, n'est pas facile à réaliser chez un petit nourrisson d'un mois ou deux qui se tortille.
Deux commentaires. Donc pour le BCG, crois que le fait que ce soit techniquement difficile à réaliser a été un des éléments qui font que maintenant la vaccination est réservée à des indications particulières, parce qu'il y a eu un certain nombre d'inconvénients de ces vaccinations par voie intradermique. Alors, c'est un autre inconvénient, la voie intradermique, c'est qu'on ne sait pas très bien la quantité de germes qu'on délivre. Et donc, ça avait été étudié avec justement les scarifications ou des choses comme ça. Donc, il y avait des gens qui étaient vaccinés avec une grande quantité de virus, c'était plus ou moins profond, d'autres avec moins, donc c'était moins efficace. Et pour la variole, si on devait être vacciné contre la variole, la technique, c'est une aiguille bifurquée. Une aiguille bifurquée, c'est une aiguille qui a deux pics, qui ressemble tout à fait, je dis toujours, à celle qu'on utilise quand on mange des bulots sur un plateau de fruits de mer. Et on plonge ça dans la solution vaccinale reconstituée. Et la quantité de vaccin, de solution vaccinale qui est absorbée entre les deux branches de l'aiguille est constante. Et donc, ça veut dire que tout le monde reçoit exactement la même dose de vaccin. Alors là, ce n'est pas très compliqué, hein, ça se ferait ici. Mmh. Et on fait 15 ponctions sur 5 mm. L'important, c'est qu'il saigne, ça saigne. Mmh. Voilà. Donc, quelques précisions, si un jour il y avait une attaque.
Alors, ce n'est pas sur la diapo, mais je vais rajouter. Alors, qui peut vacciner ? Ben, les personnes qui vaccinent avant tout sont les médecins. Tout médecin diplômé inscrit à l'ordre peut vacciner. Hein. C'est l'universalité du diplôme de docteur en médecine. Je dis bien vacciner, ça ne veut pas dire indiquer le vaccin, mais enfin réaliser l'acte, si vous voulez. Donc, en principe, c'est souvent les médecins traitants, les médecins de famille, les pédiatres. D'autres médecins aussi, des médecins retraités, peuvent tout à fait vacciner leurs proches. Hein. Des centres de PMI, les médecins du travail aussi peuvent le faire. Et puis, dans le contexte actuel de pénurie un peu des médecins, on va un peu de plus en plus vers ce qu'on appelle la délégation de tâches, et on va confier pas mal de ces tâches à des infirmières, voire des sages-femmes, qui sont tout à fait habilitées aussi à faire un vaccin. L'hôpital aussi peut vacciner, par exemple pour la fièvre jaune, c'est un vaccin qui est fait exclusivement dans certains CHU de France.
Hein ? La rage.
Et la rage. Et le patient lui-même peut se vacciner. Il y a des gens qui sont ni médecins ni infirmières, mais bon, qui se vaccinent eux-mêmes. Ça peut arriver. Ben, vous avez les diabétiques type 1 sous insuline, bon, qui ont l'habitude de se faire des injections 2, 3, 4 fois par jour. Puis il y a des gens bon, qui savent faire. Autrefois, il n'y avait pas d'infirmières dans tous les villages. Il y avait des femmes qui faisaient les vaccins pour les voisins, les voisines, etc.
À travers la jupe,
c'est possible. Alors, les contre-indications, bon, elles sont définies par une circulaire 97-267, ça je le dis tout à fait avec discipline. Elles tiennent donc aux vaccins. On a parlé des vaccins vivants avec le professeur Beck-Giraudon et aux patients aussi. Bon, c'est rare, mais enfin, bon, les femmes enceintes, il faut quand même faire. Il y a certaines précautions à prendre. Les personnes immunodéprimées ou greffées aussi. Les cas particuliers, bon, l'immunodéprimé, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard.
Oui, quelques mots, enfin, moi, c'est... Hein? Oui.
Voilà.
Rapide.
Le greffé aussi.
C'est vraiment de la pratique très, très particulière.
Très particulière, oui. Ça, moi, j'avoue, j'en vois pas beaucoup. Alors, le voyageur, ben, si j'ai un conseil à donner au voyageur, c'est pas attendre 10 jours avant le départ à Roissy pour venir chez le médecin et dire ah ben, je suis en retard du DT polio, j'ai pas l'hépatite, j'ai pas la fièvre jaune et tout. C'est des choses qui arrivent malheureusement souvent. Donc, il faut quand même anticiper son voyage et on peut, même avec les schémas accélérés de vaccination, on peut pas tout faire en 3 jours, en 4 jours, même 10 jours. Donc, quand vous savez que vous allez partir, je sais pas, au Sénégal ou en Somalie, bon, en général, vous le savez suffisamment longtemps à l'avance, il faut vous y prendre au moins 2 ou 3 mois à l'avance, si possible, pour établir un programme avec votre médecin traitant, voir ce qu'il y a des rappels à faire, les rattrapages et les vaccins obligatoires dans ces pays. Donc, ça, c'est très important. Et les voyages. Oui, vas-y.
Un tout petit commentaire, c'est que je dois dire qu'on est très satisfait, nous, au centre de vaccination, que le Paris-Dakar se déroule en Amérique du Sud, où il n'y a pas besoin de trop de vaccins, parce que quand c'était en Afrique, il y avait le motard qui arrivait avec sa moto en disant « Je pars, je ne suis pas vacciné, qu'est-ce que je fais ?»
Oui, mais c'est ça, voilà.
On disait « Vous ne pouvez pas partir », il n'était pas content.
Donc ça, c'est très important donc, d'anticiper. Alors oui, le voyageur, dans certains pays, vous savez, il est obligé de se procurer ce qu'on appelle le carnet international de vaccination, un petit carnet jaune là, avec un authentifié par les autorités administratives et politiques et donc visé par le médecin. Le sujet âgé, bon, on en parlera un petit peu plus loin. Le sujet âgé, en gros, c'est la vaccination antigrippale saisonnière à partir de 65 ans jusqu'à pratiquement la fin de la vie. Puis les sujets âgés, maintenant, ils font du vélo, ils taillent leur rosier, donc ils peuvent aussi attraper le tétanos. Donc, il ne faut pas non plus négliger les rappels antitétaniques hein, tous les 10 ans jusqu'à 100 ans, s'il faut. Hein. Et puis, éventuellement, pour certains sujets fragilisés, on en parlera un peu plus tard, le vaccin antipneumocoxique, la Pneumovax, Pneumo23. Alors, les réactions vaccinales précoces, bon, évidemment, une piqûre, une poncture, une scarification, c'est une petite agression de la peau. Hein. Bon, mais ça, on n'y peut rien. Hein. Mais bon, général, ça peut arriver, un petit coup de fatigue, un peu de fièvre, mais enfin, ça ne dure jamais très longtemps. Et puis, on n'est pas du tout dans les années 50 où, comme disait le professeur Beck-Girondan, les jeunes recrues tombaient dans les pommes et étaient malades 8 jours après avoir reçu le... des injections de vaccins TRBDT. Les réactions tardives, vaccins viraux vivants, je ne sais pas, qu'est-ce que
ouais, c'est essentiellement la possibilité de... avec, par exemple, le vaccin contre la fièvre jaune,
d'atteinte
du système nerveux, mais enfin, c'est tout à fait ponctuel, quoi. Alors, c'est dommage à l'échelon individuel, mais à l'échelon collectif de protection...
Les incidents, les nodules sous-cutanés, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, faut pas oublier quand même de réchauffer un peu le vaccin dans la main quand il sort du réfrigérateur avant de l'injecter, si possible. Faut le secouer hein, comme une bouteille d'Orangina. Et puis, quelquefois, il peut y avoir l'excipient peut mal se résorber, ça donne un petit nodule inflammatoire, voire fibreux, mais qui finit par disparaître. BCJ, adénopathie, oui, quand on fait le BCG, souvent, ça donne une espèce de petite lésion qui va suppurer, qui va suinter pendant des jours, des semaines, voire des mois. Bon, faut pas s'affoler, ça finit toujours par guérir, on met une compresse sèche et c'est tout. Adénopathie, oui, un ganglion satellite, ça peut arriver. Convulsion hyperthermique,
avec les
nouveaux vaccins cellulaires, c'est rarissime. Hein. Bon, déjà, les convulsions chez les tout-petits, c'est quand même moins fréquent qu'il y a 20 ans. Les arthralgies dues à la rubéole, oui, ça, j'ai pas d'expérience. Les accidents exceptionnels, les chocs anaphylactiques, c'est-à-dire une grande réaction allergique avec collapsus, réanimation et tout. Vous voyez, comme ça vous est mentionné, 1 sur 100 000, 1 sur 600 000. On vit dans une société où le risque zéro n'existe pas. Même quand vous prenez votre voiture pour aller à Châtellerault, on ne peut pas vous assurer à 100% qu'il ne vous arrivera rien. Les encéphalopathies précoces de la coqueluche, oui, il y en avait aussi décrites avec la variole à une époque. La BCG et les vaccins généralisés, oui, il y avait eu le fameux accident allemand avec le BCG, là où je ne sais pas quoi, où ils s'étaient trompés, ils avaient utilisé un bacille virulent au lieu d'un bacille atténué. Enfin, bref, c'est des accidents qui sont vraiment anecdotiques.
Oui, le problème, c'est que c'est sur ces accidents que s'appuie un certain nombre d'individus, d'associations, de collectivités pour dire que la vaccination, c'est dangereux. Le problème, c'est qu'ils ont oublié manifestement les dégâts que causait la maladie.
Mais c'est valable pour toute activité humaine et médicale. Hein. Quand vous donnez un traitement antihypertenseur, vous donnez n'importe quel médicament, un anticoagulant, vous prenez un risque. Hein. Dans ce cas-là, on ne ferait plus rien. Faut savoir ce qu'on veut. Et je vous dis, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Il faut s'en rapprocher. Hein. Il faut toujours viser à l'excellence, mais on n'arrivera jamais à la perfection totale. Alors les contre-indications, elles sont rares. Si on devait attendre que le gamin n'ait pas le nez qui coule ou qu'il touche jamais ou qu'il soit en pleine forme pour le vacciner, on ne le vaccinerait jamais parce que l'hiver, il fait trop froid, l'été, il fait trop chaud, il va se baigner. Donc, ma foi, c'est des contre-indications qui n'en sont pas. Inoculation simultanée possible, on peut faire plusieurs vaccins en même temps, ça, on vous l'a dit, hein. Des réactions au mercure et l'aluminium sont les excipients, sont les supports. Hein. Bon, il peut y avoir des gens qui réagissent mal. L'immunodéprimé, moi, je n'ai pas une grande expérience. C'est plutôt M. Bec-Giraudon qui peut vous en parler.
C'est-à-dire que soit c'est inefficace, parce que l'individu immunodéprimé n'a pas de capacité à fabriquer les anticorps, donc avoir une immunité correcte. Soit, alors là, c'est là qu'il faut être vigilant. Si on lui injecte un vaccin vivant, il n'y a pas de contrôle du développement du germe qui a été injecté. Et à ce moment-là, il peut faire une maladie, ce qui est logique, puisqu'il n'a pas de système de défense. Donc, puis la chez la femme enceinte, effectivement, vaut mieux pas injecter.
On continue. Alors, la vaccination, le sujet âgé, on l'a évoqué. Vous savez que depuis, ça fait quoi, 20 ans que le vaccin existe bientôt. On recommande de vacciner les personnes fragiles, hein, c'est-à-dire les gens qui ont des maladies respiratoires chroniques, des cardiaques, des diabétiques, enfin, tous les chroniques. En général, sont des gens qui sont, comme vous le savez peut-être, en ALD 30.
Tous les vieux au-delà de 65 ans.
Tous les vieux sous 65 ans, oui. Voilà. Les chroniques, en général, font partie des gens qui bénéficient d'une prise en charge à 100% pour leur maladie. Ils sont ce qu'on appelle en ALD, hein, affection longue durée. Donc tous ces gens-là aussi sont concernés. Le pneumocoque, ben, on en a un petit peu parlé. Ben, le pneumocoque est un germe qui peut donner des infections respiratoires graves, bronchopulmonaires. Et donc il y a un vaccin qui est disponible depuis déjà un certain temps, le Pneumo23 ou Pneumovax, qui se fait en une seule injection avec un rappel au bout de 5 ans et qu'on peut très bien combiner avec la vaccination antigrippale au mois d'octobre-novembre chez les personnes âgées. Le tétanos, je vous en ai parlé, même à 85 ans, on peut encore faire du vélo, aller à Royan, marcher sur un coquillage ou se piquer avec une épine ou faire de l'équitation, et c'est bien d'être vacciné du tétanos, même à cet âge-là. C'est vraiment dommage de mourir du tétanos de façon si bête. Efficacité, on en a déjà parlé dans l'exposé du professeur Bec-Giraudon, oui. Ce n'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire, il y a quand même des études sérieuses qui l'ont démontré.
Ouais, le problème, c'est que le sujet âgé, il a beaucoup de fonctions qui diminuent, y compris l'immunité, quoi.
Ah oui, non. Peut-être.
Allez, opinion.
Alors, opinion et vaccination, oui, ça c'est la polémique. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça remonte à la nuit des temps, mais enfin au début des vaccinations sur une grande échelle. Alors il y a un écart, comme vous le voyez sur cette diapo, entre les opinions individuelles et les attitudes, quoi. C'est autrement dit, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, si vous voulez. C'est un peu ça, y compris dans le corps médical, y compris chez les médecins. Donc c'est toujours pareil, quand on fait des sondages d'opinion, là comme ailleurs, les gens disent oui, il n'y a pas de problème, c'est très bien, continuez. Mais quand il faut le faire à soi-même, déjà, il y a une perte entre les deux. Hein. Donc voilà, et les comportements, c'est la réalisation pratique des vaccins. Alors, là je lis la diapo. Donc dans la population générale, c'est un baromètre santé de 2005, 9 personnes sur 10 gardent une opinion favorable. Quand on parle des vaccins, de la médecine moderne en général, c'est rare, sont les gens qui s'y opposent de façon drastique. Mais quand même, il y a toujours un mais. Il y a des réserves, il y a des doutes sur l'efficacité et la sécurité. Efficacité, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de risque zéro. L'efficacité à 100% non plus n'existe pas. La sécurité, il peut y avoir aussi quelques petits... moi, j'appellerais ça plutôt des désagréments, mais il n'y a quand même pas de gros problèmes de sécurité. Alors encore, la population générale, 9% de la population déclarait défavorable, soit à toute vaccination. Ça, c'est plutôt une question philosophique ou métaphysique, ou même pas religieuse, non, mais plutôt philosophique. Soit à dévaccination. Alors dévaccination, ça veut dire peut-être plusieurs vaccinations.
Il y en a qui sont contre le BCG, d'autres contre
ça. Oui, à dévaccination en particulier, oui, c'est ça. Ou certaines vaccinations où ça se recoupe. En particulier, on a parlé de la vaccination contre l'hépatite virale B, qui avait suscité des doutes avec l'apparition chez certaines personnes de maladies démyélinisantes, de sclérose en plaques, pour ne pas les citer, voire autres. Donc il y a des gens qui sont, on dit dans le doute, on y va, mais eux, c'est dans le doute, abstiens-toi. Alors, des groupes surreprésentés, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, jamais des trains qui arrivent à l'heure. Donc, c'est des groupes qui sont souvent invités sur les plateaux de télévision, dans les émissions, dans les médias écrits ou télévisuels, et qui, quand même, font assez de mal parce que, ils diffusent quand même leur message à des gens qui sont un peu hésitants ou qui sont mal informés. Alors, parmi les professionnels de santé d'où nous faisons parmi lesquels nous nous classons, 97% des médecins généralistes et pharmaciens sont favorables, mais se posent des questions sur l'opportunité de certains vaccins chez l'enfant. Ça, vous prenez, je le lis vraiment comme c'est écrit.
Ouais, c'est un sondage.
C'est un sondage, je n'ai pas de commentaire particulier. Alors, les réticences, oui. Je vais essayer d'aller vite. Je vous rappelle tout d'abord que nous sommes des citoyens de la République française et que dans la République française, on vit dans un état de droit. Donc, toute personne est libre de son propre corps et de l'injection de sa propre santé. Ça, c'est dans le code civil, dans le code pénal, dans le code de déontologie, et ça a été redit donc, dans la loi Kouchner, donc sur le droit des malades et la qualité du système de santé, la fameuse loi donc, du 4 mars 2002. Ceci dit, les personnels de santé, les médecins ont des responsabilités aussi. Et donc, tout patient a droit de refuser des soins. Vous pouvez refuser une biopsie, une coloscopie, une prise de sang, un traitement par insuline, un vaccin. C'est tout à fait normal. Enfin, c'est tout à fait votre droit. Donc, on est dans le cadre médico-légal, juridique et déontologique. Mais par contre, le médecin doit quand même, s'il y a un problème, ne faut pas lui reprocher de ne pas vous avoir donné l'information conforme. Ça, l'information est un devoir pour le médecin et un droit pour le malade. Donc, selon la formule consacrée de la loi Kouchner, l'information du patient doit être claire, loyale et adaptée. Hein, claire, c'est-à-dire elle doit être didactique, hein. On ne va pas raconter d'histoire. Loyale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas cacher la vérité. Et adapté, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la portée de chacun, de son niveau socio-culturel, de ses coutumes, de ses origines, de son âge, etc. Quatrième point très important, ça, pour le médecin, pour le professionnel de santé, s'assurer qu'elle ait été comprise. Il ne suffit pas de donner un papier écrit, comme ça vous le direz chez vous, non, il faut le dire oralement, commenter, et s'assurer que vraiment elle ait été comprise du patient. Et tout ça, ça débouche pourquoi ? Pour obtenir ce qu'on appelle le consentement éclairé du patient. C'est-à-dire que le patient dit, bah oui, vous m'avez bien expliqué, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Je parle des majeurs en pleine possession de leur faculté mentale, bien entendu, pas des gens sous tutelle, curatelle ou qui sont sous mandat de protection. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc on peut toujours refuser, mais il faut que le médecin délivre une information adaptée. C'est très important. Sinon, sa responsabilité peut être mise en jeu ultérieurement. Alors, je pense que la maladie n'est pas grave. Bon, ben, on ne va pas revenir sur les maladies par lesquelles les vaccinations... Que les vaccinations ont fait disparaître. Bon, je vous rappelle que rien que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu plus de morts par le tétanos et la grippe espagnole que par les blessures par arme à feu ou arme blanche, hein, rien que ça. Bon, les oreillons, pour citer que ça, bah, chez les jeunes garçons, pouvaient donner des orchites, c'est-à-dire des inflammations des testicules, va entraîner plus tard des stérilités. La diphtérie, on en a parlé, bah, ça donnait des fausses membranes dans la gorge, les gens étouffaient, on est obligé de faire des trachéotomies quand ils ne mouraient pas. On pourrait citer les poliomyélites, les plus anciens d'entre vous ont tous croisé dans les années 50 des gamins ou des gens qui avaient eu la polio, hein, qui traînaient la jambe, qui marchaient avec des béquilles, le fameux poumon d'acier là, des années 50, bah, c'était ça. Le tétanos, mourir du tétanos, c'est quand même pas marrant, hein, c'est de la réanimation, c'est grave, alors que c'est si simple de s'en prémunir. Donc c'est pas grave si c'est grave. La maladie est très rare, rare ça veut pas dire inexistant. Et on a beau habiter Poitiers, Marseille, être médecin, infirmière, on n'est pas à l'abri de ces maladies-là, hein, donc rare ça veut pas dire inexistant. Je pense que j'ai peu de risque d'avoir cette maladie. Ben, je vous renvoie donc à la rubrique précédente. Qu'on soit médecin ou pas médecin, on peut tous avoir des infarctus, des pneumopathies, des tuberculoses, des AVC, des cancers et autres. Hein. Alors, je n'aime pas les piqûres. Bon, ben, je n'aime pas les piqûres. Alors ça, bon, ben, quand on se brûle avec le barbecue, qu'on se fait piquer par une guêpe, ben, ça fait mal. Hein. C'est quand même pas... Il y a pire. Alors évidemment, je reviens sur deux points. Ce qu'a évoqué le professeur Bec-Giraudon, c'est les piqûres au service militaire. Souvent, c'était fait avec des aiguilles qui étaient lavées, restérilisées. Ce n'étaient pas des très bons aciers, elles étaient un peu rouillées. On faisait ça à la queue leu-leu, donc c'était très douloureux. Il y avait un côté un peu psychologique, donc il y en a la moitié qui tombait dans les pommes. Donc il y en a qui sont encore restés à cette image de la piqûre, si vous voulez. Or, les aiguilles actuelles sont des petites aiguilles très, très fines qui font 2 cm, hyper biseautées, hyper calibrées, siliconées, à usage unique. Donc, quand c'est fait entre des mains expertes, il n'y a aucun problème. Je n'aime pas les piqûres. Alors, oui, il y a aussi le mythe de la piqûre pour les enfants. Ça disparaît. Mais combien de mères, mais moi, ça fait 35 ans que je suis installé, et quand ils nous amenaient un gamin, tout de suite, la première chose, tu vas voir, si tu n'es pas sage, le docteur va te faire une piqûre. Donc, il y a une association dans l'esprit des enfants, docteur égale piqûre, enfin, surtout chez les petits. Donc, quand ils arrivaient chez le médecin, ils étaient tremblants, voilà, parce que la mère lui avait dit, tu vas voir, il va faire une piqûre. Il y avait un côté un peu expiatoire de la piqûre, côté douleur. Donc, beaucoup d'enfants ont été éduqués un peu dans cette optique.
C'est d'ailleurs paradoxal, parce que lorsqu'on arrive aux urgences aujourd'hui, si on n'a pas la perfusion et la piqûre, on n'a pas l'impression d'être soigné.
Oui, tout à fait.
C'est quand même curieux, quoi.
Oui, il y a un paradoxe un peu. Ouais. Vous n'avez pas une piqûre pour qu'il soit plus sage, vous voyez, des choses comme ça. D'un autre côté, à une certaine époque, un médecin énergique, c'est un médecin qui prescrivait beaucoup de piqûres. Hein. On faisait des séries d'intramusculaires, d'antibiotiques, des fortifiants, comme on disait à l'époque. Et on disait, ça, c'est un médecin allergique, il fait des piqûres. Ou docteur, faites-moi donc des piqûres. Voilà, pour en terminer sur la piqûre. Mesdames les infirmières, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, vous voyez, vous êtes à l'honneur. J'ai peur d'avoir mal au moment de l'injection, bon, on en a déjà parlé, hein, quand c'est bien fait, comme ça, il faut détendre l'atmosphère, clac, et puis ça y est, hein, ça dure un quart de seconde. Hein. J'ai peur d'avoir de la fièvre, une douleur ou d'autres réactions après la vaccination, bon, on vous a dit que ça pouvait arriver, mais on n'en meurt pas, hein, ça c'est... J'ai peur que le vaccin déclenche la maladie. Ben non, puisqu'on vous l'a dit, c'est des vaccins qui sont tués ou atténués. C'est pas le but recherché. Donc, il a gardé son antigénicité, comme vous l'a expliqué le professeur Beck-Giraudon. Mais il a perdu sa virulence, c'est-à-dire sa capacité à donner la maladie. C'est la définition même du vaccin. Je pense que la vaccination ne sert à rien. Ben, ça, je vous ramène à la première. Hein. Ça sert à rien. Toutes les maladies ne sont pas curables avec les antibiotiques ou autres, surtout les maladies virales, et ça sert vraiment à quelque chose. Les vaccins empêchent le corps de se défendre tout seul contre les maladies. Ben effectivement, on a un système immunitaire qui, normalement, devrait nous empêcher de nous défendre tout seul contre les maladies. On a des leucocytes, des globules blancs, on a des anticorps. Mais malheureusement, ces défenses immunitaires, non seulement elles mettent un certain temps avant d'agir, donc il y a quand même un laps de temps, ce n'est pas instantané, puis de temps en temps, elles sont débordées. Donc de temps en temps, il faut venir leur donner un petit coup de main. Donc c'est l'utilisation des antibiotiques et c'est l'utilisation des vaccinations. Je pense que la vaccination, ce n'est pas naturel. Ben, si, c'est naturel, c'est la reproduction un peu artificielle d'un phénomène naturel. C'est-à-dire on met en contact l'organisme avec un antigène et il va fabriquer des anticorps. Donc quand vous attrapez la maladie, tuberculose, n'importe quoi, en général, vous développez des anticorps et vous n'êtes pas pour toutes les maladies, mais immunisé par la maladie. Quand vous n'en mourrez pas, vous n'avez pas de séquelles. Je ne penserai pas à faire tous les rappels. Alors là, bon, ben ça, c'est très important parce que c'est là où le bât blesse. Souvent, les gens sont vaccinés quand ils sont petits, puis après, ma foi, ça part dans les oubliettes. Donc, il y a deux personnes qui doivent tenir à jour leur dossier médical. C'est le médecin traitant et le patient lui-même. Donc, le médecin traitant, normalement, il est du devoir de tout médecin de tenir un dossier médical pour ses patients, savoir ses antécédents, ce qu'il prend comme traitement, les courriers d'hospitalisation. Et dans ce dossier médical doit figurer justement les vaccins qui ont été faits et les vaccins qui sont à faire. Alors quand on est informatisé, c'est facile, parce que la plupart des logiciels de médecins comportent ce qu'on appelle des alarmes. C'est-à-dire vous faites un rappel antitétanique aujourd'hui, le 22 avril 2009. Donc vous allez mettre dans vos alarmes, 22 avril 2019, rappel antitétanique. Ce qui fait qu'en 2019, si vous oubliez, ben vous verrez dans le dossier du patient qu'il y a un rappel à faire. Mais le dossier du médecin, par définition, il est chez le médecin. Donc le malade, lui, il n'habite pas chez le médecin. Il habite à Poitiers, il habite à Royan, il se déplace. Donc il faut qu'il ait quand même un peu l'équivalent, en plus simple, d'un dossier médical chez lui. Hein, c'est valable pour les anticoagulants, pour les diabétiques, pour les gens qui ont des bronchites chroniques, etc. Il faut qu'ils aient quand même un petit double chez eux parce qu'ils n'ont pas toujours leur médecin traitant habituel à portée de main. Ils peuvent se déplacer et c'est quand même pratique pour un autre médecin de pouvoir consulter ça. Et dans ce dossier médical doit figurer le petit carnet de vaccination avec les dates des vaccinations et les rappels à faire. Alors, chez les enfants, bon, c'est simple, ils ont le fameux carnet de santé, vous savez, qui existe à peu près depuis les années 70. Mais en général, ce carnet de santé, plus il est utilisé, plus il est abîmé quand il ne passe pas dans la machine à laver. Donc il arrive un moment, vers l'âge de 15-16 ans, ben, on ne sait plus très bien où il en est. Donc il faut que les gens, et vous en avez eu là d'ailleurs sur les tables, un petit carnet de vaccination, et si possible, qu'ils gardent sur eux. Parce que quand ils s'absentent, s'il arrive un accident, ils vont aller dans un hôpital et l'interne ou le médecin va tout de suite demander s'ils sont à jour au niveau vaccin antitétanique. Donc, en l'absence de preuves écrites, le médecin fait légalement obligé de faire un rappel. Tandis que si le carnet est bien tenu, ben, l'interne ou le médecin va voir, ben oui, le dernier rappel est de 2007, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est très important, la tenue du dossier par le médecin et par le patient. Il ne faut pas tout mettre sur le dos du médecin. Excuse-moi, j'ai été un peu long, mais...
Non.
Alors, faire tous les rappels. Je connais quelqu'un qui a été grand malade à cause d'un vaccin. Ben non, ça, c'est des coïncidences. Hein. C'est sûr qu'après un vaccin antitétanique, on peut faire un infarctus, ou on peut faire une embolie, on peut faire un AVC, mais ça, c'est une coïncidence, mais ça n'a aucun rapport. Alors,
bien.
Le carré, on dit, on fait le carré.
Question suivante.
Oui.
Donc, pour terminer, quelques mots sur les vaccins du futur. Donc, on n'a pas fini d'être percé, hein, puisque d'être piqué, puisque plus de 400 vaccins sont à l'étude au niveau mondial. Donc, c'est très difficile, en réalité, de faire un schéma qui résume les perspectives, parce que ça dépend des pays, ça dépend de tout un tas de facteurs, hein. Puisque rougeole, oreillon, rubéole et varicelle, enfin, les quatre vaccins existent, mais ce qu'on voudrait, c'est les mettre dans une même seringue, hein, pour les faire en une seule fois. Il y a le problème du vaccin contre le zona, contre lequel devrait normalement protéger la varicelle, puisqu'en fait, c'est la même maladie. Et il y a le problème des infections à méningocoque. Hein, il suffit de prendre France Inter, et vous savez, heure par heure, combien il y a de méningites et méningocoques en France. Donc à moyen terme, dans les 10 ans, on espère avoir un vaccin contre l'hépatite C, contre le sida, le virus du sida, pardon, mais ça fait depuis 30 ans qu'on entend dire qu'existe la maladie, enfin que la maladie est connue, qu'on dit que dans les 5 ans qui viennent, on va avoir le vaccin, mais c'est extraordinairement difficile au plan technique. On aimerait bien remplacer le vaccin par le BCG, enfin, par un meilleur vaccin contre la tuberculose. Pourquoi ? Parce qu'on a une grande menace qui plane sur nous, c'est que le germe de la tuberculose est devenu hautement résistant, enfin, certaines souches, à des antibiotiques. Et il y a des tuberculoses qu'on ne sait plus traiter avec les antibiotiques d'aujourd'hui et qu'on reprend, pour lesquelles on remet en œuvre des stratégies thérapeutiques qui existait avant l'ère des antibiotiques, c'est-à-dire le sanatorium, le pneumothorax et l'ablation du foyer. Donc on revient 70 ans en arrière. Bon, je ne veux pas vous empêcher quand même de... Puis il y a tout un tas de virus contre lesquels on aimerait bien être vacciné. Et également, toujours le méningocoque, hein, qui est un gros problème avec le méningocoque de type B. Et puis à long terme, on pense qu'on pourra se vacciner contre un certain nombre d'agents infectieux. On verra ce qui se passera. Donc, le développement d'un vaccin, c'est quelque chose de très long, comme d'ailleurs tous les développements de substances thérapeutiques, hein, puisqu'il faut identifier la maladie cible, ça, c'est pas trop compliqué. Comprendre comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on s'infecte, quelles sont les choses qui sont... Enfin, chez le germe, quels sont les facteurs de l'agressivité. Et donc... identifier, puisque je vous ai dit que c'était les fractions qui étaient importantes et intéressantes, l'antigène, c'est-à-dire la substance du germe, du virus, qui permettra la meilleure immunisation, la meilleure défense de l'organisme. Puis ensuite, on fait des tests, hein, il faut 3-4 ans, donc il faut un certain temps pour ça. 3-4 ans pour les tests, ensuite le temps de produire le vaccin et de l'enregistrer, parce que les réglementations sont de plus en plus contraignantes. Il faut pratiquement... 25 à 30 ans. C'est absolument considérable. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que s'il y avait, par exemple, une pandémie grippale, hein, on parle tous de la grippe aviaire, eh bien, il faudrait bousculer ce calendrier pour faire un vaccin en quelques mois, pour qu'on ait de la chance que ça ait un intérêt immédiat. Donc, il y a des techniques, je ne veux pas y insister, hein, parce que c'est un peu trop technique, justement. Mais on peut utiliser tout un tas de... Toutes les composantes d'une bactérie ou d'un virus, voire d'un parasite, peuvent être utilisées comme antigènes. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est que les vaccins inertes prennent la première place. Et donc, là, il y a un certain nombre de techniques, je passe aussi extrêmement rapidement là-dessus, qui permettent d'identifier les structures antigéniques les plus intéressantes dans la constitution d'une bactérie ou d'un virus pour avoir le meilleur rapport d'efficacité. Je passe. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un nouveau vaccin qu'on pourrait considérer comme idéal ? Donc, il faut qu'il soit bien toléré, hein, pour essayer de répondre aux réticences qui ont été rappelées tout à l'heure, en particulier chez l'enfant et également chez l'immunodéprimé, puisqu'il y a de plus en plus d'immunodéprimés. La voie orale dont a parlé Bernard est certainement de très très loin la plus intéressante, parce que techniquement c'est la plus facile à mettre en œuvre. Il faut qu'il soit peu cher, hein, parce que quand les vaccins ne sont pas tous remboursés par la sécurité sociale, il y en a certains qui sont extrêmement onéreux, hein, en particulier les vaccins contre la fièvre jaune, l'hépatite A. C'est très très cher, et là on peut s'interroger sur la pertinence des choix des autorités, hein, puisque le coût de la maladie déclarée est infiniment supérieur au coût de la vaccination. Protecteur en une seule dose, là c'est pour répondre à toutes les objections qui ont été dites tout à l'heure sur la mauvaise tolérance. Pouvant être administré très jeune, stable à la chaleur, donc ça c'est surtout valable pour les pays en voie de développement, facile d'administration et s'intégrant dans les programmes existants, puisque on en parlera peut-être dans la discussion, des stratégies, des plannings qui sont proposés et conseillés pour l'administration des vaccins. Alors, quelques vaccins qui posent problème, hein, qu'on aimerait bien avoir. Le vaccin contre le méningocoque de type B. Alors, le méningocoque de type B, c'est le germe responsable de la méningite et qui est le plus souvent en cause. Vous savez, vous ne savez pas, si vous ne savez pas, je vous l'apprends, qu'il y a actuellement une épidémie de méningocoque de type B en Basse et Haute-Normandie et qu'on a toutes les peines du monde à contrôler parce qu'en France, on n'a pas de vaccin disponible. Le vaccin qui est proposé pour essayer d'enrayer la progression de ce méningocoque de type B, qui est une souche particulière, est un vaccin qui est fabriqué en Norvège et qui est administré par tolérance, parce qu'il n'est pas homologué par nos autorités comme la FSAPS et des choses comme ça. Donc ce vaccin est fabriqué dans un autre pays. Et c'est vrai que le méningocoque de type B, enfin je ne vais pas y insister, mais il a des caractéristiques d'antigénicité qui font que c'est un germe contre lequel il est difficile de s'immuniser. Il y a d'autres méningocoques, le A et le C, pour lequel c'est beaucoup plus simple. Le vaccin contre le choléra, donc je vous ai dit que le vaccin injectable avec des corps bactériens entiers était très mal toléré et tout à fait inefficace. C'est pour ça que, comme c'est un germe qui se contracte par l'alimentation, par l'eau, eh bien, on aimerait bien avoir un vaccin vivant par la bouche, hein, administré par la bouche ou des fractions antigéniques. Donc, il y a ce type de vaccin existe, mais n'est pas admis en France. Et puis, il y a le vaccin anti-zona, puisque le zona est une maladie extrêmement douloureuse chez la personne âgée qui a fait sa varicelle dans l'enfance et qui est une chose qui va être proposée. Alors, on essaie au maximum d'associer les germes entre eux, hein, pour diminuer le nombre d'injections, parce que quand on réfléchit au nombre de piqûres qu'on doit avoir, c'est considérable. Et donc, il y a un vaccin contre le méningocoque, ACYW135, qui, lui, est administré pour les gens qui vont dans les zones d'endémie. Et donc, en particulier, ce vaccin est administré aux pèlerins qui vont à la Mecque. Hein. La Mecque, c'est... des conditions idéales pour la transmission des germes. Lorsqu'ils tournent autour de la Kaaba, là, il y a 2 millions de personnes qui tournent, qui sont à moins de 2 mètres l'une de l'autre, et ils échangent beaucoup de choses, hein, la foi, mais également les microbes et les virus. Donc, le futur lointain, ça va être des vaccins qui vont associer un certain nombre de composants. Donc, ce qu'on appelle l'épitope, c'est-à-dire l'antigène, en fait. Et puis, des substances qui sont adjointes pour essayer de renforcer l'immunité. Et on pense que ça devrait aider à vacciner contre les diarrhées infectieuses. Je vous rappelle que c'est une des 6 principales causes de mortalité à la surface de la planète. Et on a un premier vaccin anti-diarrhée infectieuse, c'est le vaccin contre le rotavirus. Mais il y a également le problème des herpès, en particulier l'herpès récidivant, qui est véritablement peut être très invalidant. Toutes les infections respiratoires, le cytomégalovirus, les arboviroses. Et si on pouvait avoir des vaccins contre les maladies sexuellement transmises, ça serait pas mal non plus. On peut d'ailleurs y intégrer le VIH. Et puis, il y a les maladies parasitaires, dont je vous rappelle quand même que le paludisme est une des principales maladies qui tuent à la surface de la planète. Et c'est d'autant plus urgent et important d'avoir un vaccin contre ce parasite qu'il est devenu résistant à de nombreux antipaludéens. On se retrouve devant le problème qu'on connaît pour la tuberculose. Et puis, alors, le domaine de la vaccination s'élargit à des vaccins qu'on peut considérer comme non anti-infectieux, anti-hormonaux, anti-tumoraux. Autrement dit, le principe de la vaccination peut être appliqué à des pathologies non infectieuses, ou en tout cas pas directement infectieuses. Alors, les vaccins anti-infectieux thérapeutiques, le vaccin contre l'hépatite B, permet de guérir les porteurs chroniques, mais est également un vaccin anticancéreux, puisque des complications du portage chronique du virus de l'hépatite B comme de l'hépatite C d'ailleurs, c'est le cancer du foie. Il y a le vaccin contre le papillomavirus humain, donc avoir des condylomes génitaux, ce n'est pas très agréable, mais le risque, indépendamment de ça, c'est que c'est un vaccin oncogène qui va créer des cancers, des cancers en particulier de l'utérus, et donc la stratégie de prévention du cancer de l'utérus, qui est liée dans plus de 80% des cas à une infection chronique par ce virus, c'est de vacciner.
Le col
de l'utérus, oui. J'oublie toujours de dire le col, je ne sais pas pourquoi. Et puis donc, autre exemple de vaccin qu'on peut utiliser, proposer un vaccin contre le mélanome. On pourrait aller au soleil tranquillement. Éventuellement contre le cancer de la prostate, contre des maladies hématologiques comme la leucémie lymphoïde chronique. Donc, la stratégie de la vaccination, le principe de la vaccination peut être étendu à des maladies non infectieuses, dont la maladie d'Alzheimer, puisque c'est le dépôt dans le cerveau d'une substance anormale. Si on peut contrôler par un vaccin cette coproduction, on deviendra dément un peu plus tard, simplement. J'en suis où, là? Et puis, on a imaginé la possibilité de vaccins anti-nicotine, de vaccins anti-hypertension. Enfin, c'est un domaine qui est en pleine effervescence, en pleine ébullition, et donc qui va très, très au-delà de la maladie infectieuse. Et donc, pour conclure, que de chemin parcouru depuis Jenner et Louis Pasteur. Voilà, donc, cette première partie est terminée. Si vous voulez poser des questions ou discuter, en particulier au plan pratique avec M. Champin.
Est-ce qu'il faut prendre le micro ?
Oui, si vous voulez.
Bon, je voudrais dire quelque chose à propos de l'efficacité du vaccin hépatite B sur les nourrissons dans les pays de faible endémie. Parce que ça pose un problème qu'on n'avait jamais pu tester jusqu'à présent en raison du fait que le vaccin hépatite B est très récent. Si vous voulez, le recombinant date de 1982. Et dès 1991, c'est-à-dire très peu de temps après, l'OMS avait fait recommander par l'Assemblée mondiale de la santé la vaccination généralisée des nourrissons. Alors, le vaccin avait été testé sur 5-6 ans à Taïwan, dans un pays de haute endémie d'hépatite B, et les résultats étaient très positifs. Mais dans un pays de faible endémie, le problème est tout à fait différent, parce que les nourrissons, pour l'essentiel, s'ils sont contaminés, le seront pour le gros entre 20 ans et 30 ans. Donc il faudrait, pour que le vaccin soit utile, pour eux, qu'il soit efficace pendant au moins, disons, 25 ans. Or, en 1991, c'était évidemment impossible de le savoir. Alors, il y a eu des tests qui ont été faits à 5 ans après la vaccination, des nourrissons, 10 ans après, qui étaient, disons, favorable. Et il y a seulement 2 ans, par Amit, il y a eu une première étude, 15 ans après la vaccination des nourrissons, sur des enfants qui n'avaient pas été contaminés, bien sûr, par le virus sauvage. Et en 2008, publié en octobre dernier, par Bialek, sur également des nourrissons. Alors, on les teste comment ? Sur des nourrissons qui n'ont pas été infectés par le virus, bien sûr, on peut le tester, avec une dose de rappel. Et la réponse attendue, c'est une bouffée rapide d'anticorps. C'est-à-dire la réponse qu'on appelle en immunologie, je crois, anamnésique, c'est-à-dire la réponse par la mémoire immunitaire. Parce que les anticorps hépatite B disparaissent très rapidement. Mais la mémoire laisse une trace. Et pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait, au moment où le virus arrive, cette bouffée rapide d'anticorps qui souvent n'existe plus au bout de quelques années. Et on teste donc l'existence de cette mémoire comme ça. Alors 5 ans, 10 ans après, c'était bon. 15 ans après, donc il y a 2 ans, Bialek a mis en évidence que 50% des enfants ainsi testés ne réagissaient pas à cette dose de rappel. Et 1 an plus tard, donc il y a très peu de temps, Bialek, cette fois-ci, a confirmé le même résultat, 50%. Les uns, c'était en Alaska, donc pays froid, les autres, c'était dans une île du Pacifique, pays chaud. Le résultat est exactement le même. Alors ça pose un double problème, c'est que premièrement, dans un pays de faible endémie, je dis bien, à Taïwan ou à Singapour ou en Chine, c'est autre chose, parce que les enfants peuvent être contaminés très tôt. Cette vaccination risque premièrement de s'avérer inopérante, et deuxièmement, on risque d'avoir l'impossibilité de protéger ces enfants par des rappels de vaccination, puisqu'ils ne réagissent pas aux rappels. Et encore, on n'est qu'à 15 ans, alors qu'il faudrait aller à 20 ans ou 25 ans. Il y a eu beaucoup de pertes entre 10 ans et 15 ans. Qu'est-ce que ce sera entre 15 ans et 20 ans? Il faut encore attendre 4 ou 5 ans avant de le savoir. Et je rappelle pour terminer qu'il y a des pays comme la Grande-Bretagne, l'Irlande, les Pays-Bas et tous les pays scandinaves qui n'ont pas voulu aller dans cette direction et qui se contentent de vacciner les nourrissons dont la mère est infectée. Et peut-être que c'est eux, pour nos pays à nous, je ne parle pas pour les autres, mais pour nos pays à nous, c'est peut-être la bonne stratégie. Voilà.
Alors ça, c'est un vaste sujet. Et là, je ne suis pas tout à fait expert pour traduire les spéculations ou les propositions des gens du comité technique des vaccinations. Bon, c'est vrai qu'on a en France, il y a une relation relativement passionnelle, parfois un petit peu irrationnelle aussi vis-à-vis de ce vaccin. Donc récemment, là, je n'ai pas encore relu, mais ils conseillent de faire maintenant des dosages d'anticorps pour voir si les gens sont protégés. Et ils exigent un taux de protéines.
La vaccination des adultes, oui, qui n'ont pas été vaccinés, oui, en, oui, enfants.
En particulier en milieu de santé, ils exigent 100 unités, je crois, internationales de vaccins. C'est nouveau. Parce que j'ai connu l'époque où on disait, justement chez les adultes, les personnels de santé, qu'on essayait de vacciner. Bon, ils ont eu 3, 4, 5 injections. Ils n'ont toujours pas d'anticorps détectables. Mais a priori, ils seront protégés. Ils ne feront pas la maladie. Voilà. Mon expertise à moi s'arrête là, parce que c'est une discussion très technique, hein, très technique, et qui est loin d'être résolue.
Oui, c'est sûr, mais ce que je voulais simplement, oui, souligner, c'est que quand on a lancé cette campagne mondiale de vaccination des nourrissons en 1991, même si tous les pays, évidemment, n'ont pas intégré ou sifflé instantanément, on ne savait absolument pas, l'OMS ne pouvait pas savoir, si dans ces conditions-là, le vaccin serait utile. Qu'il soit efficace, oui, mais pour qu'il soit utile, il faut qu'il soit efficace sur une durée, dans nos pays à nous, mettons 25 ans. Est-ce qu'on avait ces preuves-là à ce moment-là? On peut affirmer de manière certaine qu'on ne les avait pas. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on est seulement à 15 ans, et il faudrait attendre, il faudrait avoir l'efficacité à 25 ans. Donc on a encore 10 ans à attendre avant de savoir. Il y a eu beaucoup de pertes entre 10 ans et 15 ans. On risque d'avoir encore plus de pertes entre 15 ans et 20 ans, et on ne sait pas s'il restera quelque chose. C'est là l'interrogation qu'on a. Non, et ça, c'est une interrogation nouvelle, et ça n'a rien à voir, je le précise, avec la polémique du vaccin hépatite B par rapport aux scléroses en plaques, etc. C'est le problème de son utilité dans les pays de faible endémie.
Oui, comme d'autres vaccins, d'ailleurs. Et puis, le problème de la revaccination, enfin, je veux dire...
Mais je vous donnerai les références, ouais, des études d'analyse.
L'argumentation est certainement très valable. Mais nous, on est obligé de suivre les directives un peu d'en haut, bien entendu, d'accord, parce que sinon, c'est l'anarchie.
L'aspect irrationnel et passionnel, il vient des deux côtés, hein, voilà. Du côté des promoteurs et du côté de ceux qui sont contre.
Trois petits points. Bon, ben, je vous rappelle que dans toute vaccination, il y a un intérêt personnel, particulier, il y a un intérêt collectif, hein, même si on ne le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Enfin, je parle en général. Deuxièmement, le fait de vacciner les enfants, ben, c'est sûr que c'est plus facile de vacciner les enfants parce qu'il ne peut pas exprimer sa volonté que de vacciner plus tard. Hein, c'est un peu, hein, vous voyez, c'est un petit peu pour ça que c'est fait. Au moins, on est sûr que ça sera fait. Et puis, je vois, je suis en même temps médecin de sapeurs-pompiers. Je vois chez les sapeurs-pompiers, là, en cas de non-réaction à la vaccination, on arrête à la sixième injection. Mmh. On ne va pas au-delà de six injections.
C'est réglementaire pour les
pompiers. Voilà, c'est six injections pour les pompiers.
Pour les autres aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non.
La polémique, effectivement, qui est développée sur le vaccin d'hépatite B, sur nos enfants qui ont été vaccinés, sur le développement de ces fameuses maladies. Parce que si on va sur Internet, effectivement, on voit...
Des myélinisantes,
la sclérose en plaques, la spondylarthrite aussi, puisque moi, récemment, j'ai lu ça. Donc, on ne sait plus trop où on en est. On a beau être à la fois dans la médecine et être parent. Aujourd'hui, vous n'avez pas plus de...
De réponse.
Non.
Mon modeste médecin praticien.
Comme j'ai dit à monsieur,
je suis les directives qu'on me...
Enfin, toutes les recommandations actuelles, parce que c'est quand même suivi, hein. Tente à établir que c'est plus vraisemblablement des coïncidences qu'autre chose. C'est une polémique qui est assez,
bah oui,
assez locale, quoi, je veux dire. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, on ne voit pas pourquoi. De l'autre côté de la frontière, ils ne feraient pas ce type d'accident, et chez nous... Alors, il y a eu effectivement une étude relativement récente qui avait un petit peu jeté le trouble, qui date d'un an à peu près, fait à la Pitié, je crois, Saint-Pétrière, où... Il y avait un sous-groupe particulier dans lequel il semblait y avoir effectivement un surnombre de maladies des myélinisantes. Enfin, c'était quelque chose de très particulier. Donc, les gens du comité technique ont réétudié ça et puis ont estimé que c'était pas significatif maintenant.
Les études sont difficiles à réaliser. C'est un peu comme pour les médicaments. Il faudrait faire des études en double aveugle contre placebo, prendre 2000 personnes du même âge sans les vacciner, 2000 autres personnes vaccinées, et puis les suivre comme une étude genre Framingham sur 20, 30 ans. Dans l'état actuel de la science, je ne pense pas que ça ait été fait.
Je pense qu'effectivement, pour ce vaccin particulier, donc en fait, la problématique, c'est de protéger contre la cirrhose et le cancer du foie à long terme, c'est ça. Et puis les cas d'hépatite fulminante qu'on peut rencontrer, c'est vrai qu'il n'est pas trop tenu compte, mais c'est arrivé dans un contexte où il y avait le VIH, beaucoup de choses, de l'épidémie en France, où finalement le nombre de cas est quand même reste relativement modeste. Enfin, il y a des gens qui sont porteurs sans le savoir. Et c'est sûr que le pari au départ, ça c'est clair, enfin quand on se rappelle un peu ce qui avait pu être dit à l'époque, c'est qu'on vaccinait dans l'enfance et après on était protégé toute la vie. On a la démonstration avec la diphtérie, la variole et tous les vaccins, en réalité la rougeole, que c'est totalement faux, qu'il faut refaire des rappels systématiquement, sinon ça n'a pas d'intérêt, quoi.
Ben oui, c'est vrai que l'exposé que vient de faire monsieur, ça pose question, parce l'hypervaccination qu'on a eue surtout en 96, hein, parce que là, on n'a pas posé les questions. C'est vrai que les médecins disaient c'est comme ça, il faut le faire. Et puis, comme vous dites, on dit le petit ne peut pas réagir, mais enfin, c'est prendre aussi les parents des fois pour des imbéciles, hein, que de pas leur. Le petit ne peut pas dire, mais les parents peuvent réfléchir quand même, un minimum. Enfin, moi, je sais que je me suis battue avec le pédiatre parce que je ne voulais pas de ce vaccin contre l'hépatite. Mmh. Et voilà.
Et même si on a le droit. C'est votre droit le plus strict.
Si on a le droit de choisir, elle a quand même mis une pression telle que j'ai dit oui. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, j'ai un enfant qui développe autre chose. Donc, avec le lien de cause à effet, on n'en sait rien. J'accuse personne, bien sûr. Mais c'est vrai que, comme dit monsieur, trop souvent, on banalise, on bombarde, et puis après, on réfléchit. Et ça, c'est un petit peu dommage. bien que je suis convaincue des vaccinations, hein, ça, ouais, ça nous protège. Et
bah, voilà. Nous aussi, on n'est pas là pour défendre.
Oui, tout à fait.
On pas du
fait.
Tout à la solde des laboratoires ou de quelconque...
Inversement, quand monsieur vous dit, effectivement, les enfants, ça sera quand ils auront 20 ans, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, à 15 ans, voilà, il y a tous les risques. Pas tous, certes, mais... Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que derrière, moi, la question quand même que je me pose, est-ce qu'il n'y a quand même pas un marché, quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, le marché du laboratoire ? Enfin, moi, j'ai toujours, en tout cas, ça n'engage que moi, mais voilà.
Je pense qu'aujourd'hui, les laboratoires, ils sont plutôt sur le reculoir en matière d'antibiotiques et de vaccins. Ça coûte tellement cher à développer.
Mais aujourd'hui, mais pas en 80, entre 90 et 96. Hein.
Et voilà. Ils sont plutôt intéressés par les antirétroviraux et choses comme ça.
Je ne veux pas abuser, mais je peux vous donner une information que j'ai entendue le 4 mars dernier, où il y avait un colloque organisé par des parlementaires à Paris, à la Maison de la Chimie, un sénateur, Paul Blanc, et des députés. Et tous les laboratoires étaient invités également, et j'y ai assisté. Hein. Et ce qui a été dit, ça s'appelait « Vaccin, une excellence française à préserver ». Et Madame la ministre, c'est un mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, d'ailleurs, est venue faire une petite allocution à midi et demi, quelque chose comme ça. Et ça a duré l'après-midi également. Et on nous a dit que les vaccins, ça coûte tellement cher pour préparer un vaccin, plusieurs milliards d'euros, que les laboratoires demandent à l'avance d'avoir la certitude, pour se lancer dans les études, qu'ils pourront ensuite écouler leurs produits. Ce qui veut dire, si je le traduis autrement, avoir une AMM en blanc, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché en blanc, voire une recommandation en blanc, c'est-à-dire un remboursement du vaccin en blanc. Autrement, ils ne veulent pas se lancer dans les études. Alors, ça fait réfléchir.
Ça fait réfléchir. C'est pareil pour les antibiotiques. Ça coûte tellement cher maintenant que...
Mais la France, est, enfin l'Europe produit 85% des doses de vaccins qui sont utilisées dans le monde. Et la France produit 33% de la production européenne, ou quelque chose comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire que la France produit beaucoup plus.
Ceci étant, il y a les angoisses des laboratoires, il y a la pratique. Je peux vous dire qu'au centre de vaccination internationale, quand on est en rupture de stock de vaccination contre le méningocoque et qu'on est en période de pèlerinage à la Mecque, ça se passe très mal, hein. Très, très mal. Nous, on est bien emmerdés. Enfin, excusez-moi, mais...
Pour revenir à ce que disait la dame, là, le vaccin anti-hépatite B pour le nourrisson n'est pas une vaccination obligatoire. Donc, vous pouvez tout à fait refuser. C'est recommandé, c'est conseillé, c'est proposé, mais ce n'est pas obligatoire. Comme je vous le disais toujours, dans le cadre médico-légal ou déontologique, on ne peut pas vous l'imposer. Par contre, après, plus tard, s'il fait médecine ou qu'il veut être pompier ou, je ne sais pas moi, explorateur, là, bon... On lui demandera peut-être.
Qu'est-ce qui se passe si on fait un rappel au-delà des 10 ans,
mettons ? Bon, c'est pas grave. Hein.
C'est pas grave.
Dans la mesure où on a été bien vacciné au départ, même si on dépasse les 10 ans d'un ou deux ans ou trois ans ou cinq ans, ça relance, comme l'a dit monsieur, ça relance les anticorps et en général, on n'est pas obligé de tout recommencer. Au-delà peut-être de 20-30 ans, oui, mais enfin, bon. Non, vaut mieux faire ça que de ne rien faire. À telle enseigne que maintenant, même dans la prévention du tétanos, on faisait autrefois, vous savez, les sérums antitétaniques, c'est différent. Le sérum, le vaccin vous fait fabriquer les anticorps vous-même, alors que le sérum, on vous les apporte tout cuits. Ils sont souvent d'origine animale. Bon, ben, les sérums antitétaniques, on n'en fait pratiquement plus. On fait un rappel de vaccin, en général, ça suffit.
Parler de la polémique concernant le BCG, il y a une recrudescence.
Il n'y a plus de polémique.
Oui. Une polémique parce que c'était une vaccination qui était obligatoire, qui ne l'est plus, mais seulement elle est fortement recommandée dans des zones à risque,
Île-de-France,
etc.
Et dans des populations ciblées.
Afrique.
Et voilà. Et je veux dire, c'est une vaccination qui est apparemment plus efficace. Sur la tuberculose, je pense, si elle a
pulmonaire.
Été pulmonaire.
Bon, le BCG, il n'empêchait pas la tuberculose.
Non.
La tuberculisation. Son seul intérêt, c'est qu'il empêchait les formes les plus graves de la tuberculose, en particulier la méningite, la miliaire ou des choses comme ça. Voilà. Mais on pouvait avoir le BCG et faire une tuberculose pulmonaire banale, une primo-infection sans problème. Toutes ces raisons, le fait qu'on a des traitements, a priori, comme dans l'immense majorité des cas, efficaces, fait que ça a été... Et c'était abandonné chez nous, quoi. Mais bon, on est pratiquement dans les derniers à avoir abandonné, à ma connaissance, le BCG, qui ne s'est pas imposé partout, d'ailleurs. On l'avait inventé.
Sauf qu'au niveau des crèches, les enfants ne peuvent pas entrer, si par exemple un parent ne veut pas que son enfant soit vacciné contre la tuberculose, enfin...
Bah si, non, maintenant, d'ailleurs.
On ne peut pas refuser un enfant
dans les crèches.
Dans les crèches, il n'est pas vacciné contre le BCG. Non.
C'est rappelé dans le dernier calendrier vaccinal qui est sorti.
Oui, oui.
On ne peut pas s'opposer depuis presque 2 ans
à l'entrée dans les crèches d'un enfant. Par contre, que les crèches exercent des pressions psychologiques, alors il faut distinguer entre la pression psychologique et la réalité de la législation. Oui, oui. Ah oui, il y a une pression, mais il faut savoir résister aux pressions aussi. Oui, oui, mais la loi prime le règlement intérieur, faut quand même. Il faut arriver avec le décret en main, ou même simplement sur l'Institut de veille sanitaire.
Je vais persifler, on est dans un pays où il a fallu 70 ans pour réviser la liste des maladies à déclaration obligatoire. Donc on fait beaucoup de lois,
mais
avant que ça soit appliqué en fait, il faut du temps. Ah oui, c'est que... Bien sûr.
Oui, mais ils ont pas le droit de refuser un enfant pour ça. Mais de toute façon, la tuberculose chez les enfants n'est pas contagieuse. Un enfant... À cet âge, l'âge où ils sont dans les crèches, ils ne peuvent pas transmettre la tuberculose.
Hein, la question, la réponse en grave.
Mais est-ce que je peux faire une remarque sur la première courbe que vous avez présentée, justement, de décroissance aux USA, où justement, l'une des maladies les plus importantes, y compris aux USA, c'était la tuberculose. Et il y a eu les antibiotiques vers 1950, à peu près. Le BCG... De manière générale, il est arrivé à peu près aussi à ce moment-là, même s'il était inventé avant. Mais aux États-Unis, ils ne l'ont pas du tout utilisé.
Non.
Donc c'est quand même là les antibiotiques qui ont fait régresser la tuberculose et non pas le BCG. Ça, tout le monde est d'accord aujourd'hui.
Ouais. Ouais. Mais dans la courbe, c'est les vaccins, c'est les mesures d'hygiène générale, c'est les précautions alimentaires, c'est... L'élévation du niveau de vie, c'est la nutrition des gens qui sont quand même moins sensibles à l'infection quand ils sont bien nutris, qui explique cette baisse.
Et de toute façon, on voyait bien sur la deuxième courbe qui était ajustée, il y avait des ajustements, qu'à partir de 1940, il y avait quand même une chute.
Même chose pour la syphilis avec l'utilisation de la pénicilline, ça a été recta.
Il est efficace comme il a toujours été. La souche n'a pas changé.
Vous avez dit que le BK avait muté.
Ah non. Il a muté en termes de résistance aux antibiotiques, mais pas en termes de virulence. C'est pas la même chose. Comme le staphylocoque, qui est devenu résistant aux antibiotiques, il n'est pas... Je dirais même qu'il y a un certain nombre de souches de bactéries qui acquièrent des caractères de résistance qui sont plutôt moins virulentes que les bactéries n'ayant pas de caractère de résistance.
Puis comme le rappelait le professeur Beck et moi-même, techniquement, maintenant, c'est très difficile à réaliser. Voilà, parce que faire une intradermo, je vous explique, enfin, s'il y a des infirmières dans la salle, faire une intradermo chez un tout petit d'1 mois, 1 mois et demi, qui gigote, qui a une peau qui est fine comme du papier à cigarette...
Je crois que la vaccination, c'est un élément d'une stratégie de lutte contre les maladies transmissibles. Hein. Alors, il y a les antibiotiques quand c'est déclaré, il y a toutes les précautions d'hygiène individuelle et collective. Et c'est une des réponses possibles à la multirésistance qu'on a créée, hein, d'un certain nombre d'agents infectieux, parce qu'on n'a pas trop d'autres solutions, quoi. Bien.
J'avais deux questions. En cas de choc anaphylactique, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'urgence? Qu'est-ce qu'on doit injecter?
L'adrénaline.
En principe.
L'adrénaline.
La rinçure de seringue d'adrénaline. Hein? La rinçure de seringue.
Voilà. Puis après, oui. On appelle le SAMU.
Et après, oui. Donc, il faut toujours l'adrénaline.
Choc anaphylactique. Vous êtes dans la santé, là?
Oui, je suis infirmière libérale.
Ah, oui.
Donc, bon, j'aimerais rêver, mon femme.
Bah, c'est ça.
Donc, on fait de l'adrénaline en quel...
En sous-cutané.
En sous-cutané. À quel dosage?
À la... Poser une colle.
C'est un millilitre dans la seringue. Vous l'injectez.
C'est un millilitre?
Oui.
En sous-cutané, alors. Ouais.
Normalement, vous devez... Il y a des kits, hein,
oui.
Anaël, pour des trucs comme ça, enfin pour les,
ça doit faire
pour
partie
les gens qui
de
font
la couche d'urgence.
Oui, avoir, voilà.
Avoir
toujours de l'adrénaline.
Une infirmière ou un médecin.
L'adrénaline et corticoïdes.
Oui.
Corticoïdes, oui, c'est toujours.
Donc un millilitre.
Alors, ceci étant, c'est pas très fréquent, moi j'en ai jamais.
Oui, non, non, c'est pour ça que je demande, parce que bon, c'est pas le.
Mais c'est vrai que.
Des chocs en général, pas forcément liés à la vaccination.
Voilà, un choc en général.
Vous élargissez un peu le débat.
Voilà, j'élargis un petit peu.
On redoutait beaucoup, enfin, ça lorsqu'on faisait des sérums animaux, justement.
Oui.
Dans le tétanos ou chez les gens qui étaient exposés au risque rabique. Donc là, on avait la seringue prête. Enfin bon,
c'était.
Mais j'ai jamais vu.
La méthode de Besredka, on appelait ça.
Oui,
on en trois. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
On apprenait ça.
Et j'avais une deuxième question, c'est les chauves-souris. Comment peut-on les protéger de la rage? Parce que les renards, on leur donne des boulettes de viande. Alors les chauves-souris, comment on peut... Est-ce qu'il y a des méthodes pour les protéger contre la rage?
À ma connaissance, non.
Oui, il n'y a rien. Et dans nos régions, est-ce qu'il y a risque avec les chauves-souris?
Oui. Oui, nous sommes...
En cas de morsure,
nous sommes
alors
autour... Oui, oui.
Ah, oui.
Alors je vais vous faire peur. Donc nous sommes à Poitiers, dans la Vienne.
Oui.
Donc il y a eu une chauve-souris enragée... à côté de Saumur, dans une caverne de troglodytes.
Ah bon?
Donc c'était un instituteur, un chiréptologue, comme on dit, qui avait emmené sa classe pour regarder, voir les chauves-souris. Donc ils sont tombés sur une chauve-souris qui était un petit peu défaillante, qui battait de l'aile sur le sol. Donc tout le monde l'a pris, l'a mis dans une boîte à chaussures, l'a contemplé, bichonné et tout. Ils ont ramené ça à la classe, la chauve-souris est morte. Ils l'ont ramené chez les vétérinaires. Elle était enragée. Bon. Or, la chauve-souris, ça n'a pas besoin de mordre pour transmettre la rage. Hein. Ça fait des plaies extrêmement minuscules, voire invisibles. Donc, les enfants ont été... Enfin, tous les gens qui l'avaient approché ont été vaccinés. Alors après, il y a eu un autre cas du côté de Guéret sur lequel je n'ai pas eu de trucs. Mais il y a eu aussi à Vaux-sur-Mer en 2003. Donc, Vaux-sur-Mer, c'est à côté de La Rochelle, je crois. Ou voyant, enfin, je ne sais pas, dans le coin. Là. Et donc, un jour, ils ont trouvé des chauves-souris, une chauve-souris apparemment qui était pas bien. Donc, je ne sais pas, ils ont appelé les pompiers, les gendarmes et tout. Ils ont un petit peu manipulé la bête. On a envoyé le cadavre à l'Institut Pasteur. Elle était enragée. Donc, on les a vus débarquer. C'était un moment où il y avait le chien marocain, la Tiki, qui était... Donc, ils sont tous venus, les deux brigades, se faire vacciner. Quoi. Le problème, c'est que le virus de la chauve-souris n'est pas tout à fait le même que celui du renard contre lequel le vaccin est tout à fait efficace. Bon, mais il n'y a pas eu de pompiers qui ont fait la...
C'est
une
chauve-souris, une espèce protégée. Oui. Oui, mais... Ce qu'on avait mis en évidence sur la rage pour les chiens et sans doute pour d'autres animaux, c'est que le virus, il est... dans le bulbe rachidien, ce qui fait qu'il faut faire une analyse du bulbe rachidien, et par à-coup dans la salive. Mais il n'est pas forcément toujours dans la salive. Ce qui fait qu'un animal peut être enragé, avec une analyse au niveau du bulbe rachidien, on va trouver le virus, mais si le virus n'est pas dans la salive, il peut vous mordre, ça ne fera rien du tout.
Enfin, mais c'est vrai, c'est
de la rage, du point de vue de la rage.
C'est valable pour l'homme aussi.
Oui. Ce qui fait d'ailleurs qu'à l'époque de Pasteur, on avait une statistique du ministère de l'Agriculture qui était réalisé par des médecins vétérinaires et qui était, je crois, c'était 300, 350 cas déclarés par ces vétérinaires de personnes mordues par des chiens enragés ou présumés tels. Et sur ces 350, il y avait par an 30 cas de rage.
Oui, non, ça, c'est
ce qui correspond à 1 sur 12, quoi, à peu près.
C'est un phénomène qui était
1 sur 12, parce que d'abord, il pouvait y avoir des erreurs sur un chien enragé, mais qui n'était pas forcément enragé, parce qu'à cette époque, on ne faisait pas les tests. Et puis ensuite, il y avait ce problème de transmission à la salive.
On sait que pour les chauves-souris, justement, le virus peut rester quiescent dans le système nerveux pendant des années. Il y a eu des cas humains. Le délai d'incubation le plus long qui était observé, c'est des Mexicains qui avaient... immigrés clandestins aux États-Unis, qui ont déclenché une rage 5 ans après leur arrivée aux États-Unis, avec une souche qui était une souche typiquement mexicaine. Donc, on peut avoir. Quand il y avait une colonie dans un zoo de vampires, donc de grosses chauves-souris, il y en avait une qui s'est avérée être enragée, ils ont oxy toute la colonie, ils ont fait une étude du cerveau de tous les animaux de la colonie, il y en avait 1 sur 2 qui avait le virus rabique dans le cerveau. Il ne le transmettait pas. Donc, ça se transmet quand la rage est déclarée chez l'animal et dans les cinq jours à peu près, c'est ce qu'on dit en tout cas, qui précède le décès de l'animal. C'est pour ça qu'on a dans nos stratégies de prise en charge, c'est important, on a un délai de... Si l'animal qui est en surveillance n'est pas mort au bout de 15 jours, il ne peut pas avoir transmis le virus.
Voilà. Mais qu'est-ce que je fais ? Dans la cape, l'ordre positif, si je me fais morte par une chauve-souris, mais je ne peux pas récupérer la bête, qu'est-ce
voir.
Que je dois faire je dois, oui.
On vous traitera.
Et là, vous commencez un traitement antirabique, alors
oui. Oui.
Non.
Non, non, c'est plus lourd du tout. Il y a eu un cas récent de... Alors, moi, je suis très inquiet, parce que j'habite pas loin d'ici, mais je suis exposé au risque. Donc, un cas récent d'un chat à La Roche-sur-Yon, qui s'est avéré être enragé avec une souche de chauves-souris. Et moi, dans mon grenier, la rue de Léron, tu sais, j'ai des chauves-souris, puisqu'à ce moment-là, chaque été, et j'ai des chats, des chats errants qui y vont. Qui sont parfois un peu agressifs. Donc là, la chauve-souris, aujourd'hui, on ne prend pas de risque. Surtout si vous ne l'avez pas trouvée, on vous traitera. Bon, alors, le schéma thérapeutique, c'est dans les mortures considérées comme non graves, c'est 3 injections de vaccin. Donc, c'est pas. Dans les cas un peu plus. Enfin, le 3 injections, il y a 2 doses à la première injection. Puis, il y a J1, J0, J7, J14. Enfin, pour de mémoire comme ça, je peux me tromper. Et puis, dans les expositions potentiellement sévères, c'est un schéma vaccinal plus long avec un dosage des anticorps à la 4e injection et éventuellement un rappel ultérieurement. Plus des immunoglobulines humaines. Voilà. Donc ça, c'est à peu près bien. Mais il y a des cas de rage en France chaque année chez des gens qui sont allés contracter la maladie à l'étranger, en Afrique en particulier, au Moyen-Orient ou... L'Iran est un pays où il y a beaucoup d'animaux enragés, de nature.
La vaccination contre la rage ne prévient pas, en fait, vraiment de la rage, en fait. Ça n'évite pas, en fait, la contamination.
C'est un cas particulier. Ce n'est pas forcément le meilleur. Donc, vous avez la vaccination des professions exposées. Les gens de laboratoire, les vétérinaires, qui est une vaccination classique avec 3 injections, des rappels, enfin bon, il n'y a pas de problème. Et puis, compte tenu de la période d'incubation, c'est-à-dire que le temps que les symptômes apparaissent, on estime qu'en vaccinant relativement vite, éventuellement en faisant du sérum, on peut empêcher le virus d'arriver dans le système nerveux. Voilà. Donc on s'appuie sur cette caractéristique liée au virus pour faire ce qu'on appelle un traitement curatif, qui est en fait un traitement préventif, mais comme on n'a pas d'autres médicaments pour, si on est par hypothèse enragé, c'est la seule solution qu'on ait. Où on est très gêné, nous, c'est quand il y a des gens qui ont été en contact avéré avec un animal enragé 3 jours, 15 jours ou 3 semaines avant, quoi. On voit de temps en temps des gens qui arrivent d'Afrique puis qui viennent d'apprendre qu'ils ont caressé un chien qui était... Ils ont été mordus par un chien qui savait être enragé. Donc là, est-ce qu'on a le temps d'avoir une efficacité ? puisque la période d'incubation d'une rage moyenne, c'est 45 jours. Et comme les anticorps protecteurs apparaissent dans les 8-10 jours qui suivent les injections, on a une chance, on est efficace. Par contre, ça va dans des situations classiques chez nous, où on se fait mordre par un chien à travers des vêtements ou des choses comme ça. Si vous êtes mordu par un loup, comme c'est arrivé en Iran, par exemple au niveau du crâne, et puis qu'il y a une injection directe dans le système nerveux par la salive, ben, vous n'avez pas de chance, le vaccin ne sert à rien. Hein. Enfin, ça, c'est fait, mais... On a eu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui est allé se promener au Népal, qui avait été en contact avec un chien enragé. C'est un peu embêtant, quoi. Pour ceux qui font du trekking autour de l'Everest. 95% des cas de rage, c'est après contact avec un chien.
Sinon, je m'interrogeais un petit peu sur les changements réguliers donc des protocoles de vaccination. Je crois que monsieur a répondu un peu à ma question. Je pensais par exemple à l'hépatite A.
Hein, oui, ça vient encore de changer. Là, je prends encore,
voilà,
là.
C'est encore changé. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, avec deux injections, on est immunisé à vie. Alors qu'autrefois, on préconisait donc des rappels tous les 10 ans. Donc c'est peut-être pour une histoire, justement, parce que le labo, ça y est, maintenant, est entré dans ses...
Je n'ai jamais eu l'honneur d'être dans cette société qui élabore les recommandations. Je ne sais pas. Mais je les connais, les gars. Ils sont malicieux parfois.
Et juste, est-ce que vous pourriez me repréciser un peu par rapport à la vaccination contre l'aurore, enfin, concernant l'aurore parce que là, c'est pareil, ça a pas mal changé au niveau du protocole. Et, qu'en est-il actuellement?
On parle du calendrier. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, bon, je dis ça.
Pour l'aurore, les recommandations actuelles pour l'aurore, alors si c'est un enfant...
Vous l'avez sur une carte 9e, 12e mois.
Voilà. Pour un enfant normal, c'est la première injection se fait à 12 mois. Et puis il faut faire un rappel ensuite, au plus tard, 24 mois après, au 24e mois. Donc 12 mois, au minimum 13 mois, jusqu'à 24 mois. Mais si c'est un enfant de milieu un peu défavorisé, un peu, bon, qui vit en collectivité, dans un milieu défavorisé, il faut faire la première injection à 9 mois et 12 mois. Donc pour le tout, non, si vous voulez, il y a deux injections, à 12 mois, 13 mois, jusqu'à 24 mois, oui, c'est ce que je vous disais. Et si c'est un enfant qui vient d'un milieu défavorisé, qui est dans des collectivités, on peut faire le vaccin à 9 mois et à 12 mois. Toujours est-il que tous les enfants à 16 ans doivent au moins avoir eu deux injections de vaccin ROR. Et ceux qui ne l'ont pas eu, jusqu'à 28 ans, on peut encore leur faire une injection. On peut faire un rattrapage, si vous voulez. Les enfants qui seraient passés à travers les mailles du filet, jusqu'à 28-29 ans, peuvent encore avoir droit à une vaccination ROR. Et pour les femmes, elles peuvent avoir juste la rubéole, éventuellement, à condition d'avoir une contraception qui leur assure de ne pas être enceinte au moment où on fait la vaccination. Sinon, pour le tout venant, je vous dis, c'est 12 mois et un rappel jusqu'à 24 mois maximum, sauf pour les autres où ils ont 9 mois et 12 mois.
Oui, justement, dans le calendrier vaccinal, ils insistent beaucoup, ou dans les avis du Haut Conseil Santé Publique pour la rougeole, sur le fait que la deuxième injection, excusez-moi, mais n'est pas une injection de rappel. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, à 12 mois, on considère qu'il y a à peu près à moins de 90% des enfants qui vont séroconvertir. Et on fait ensuite une deuxième injection pour essayer de faire séroconvertir ceux qui n'ont pas séroconverti la première fois. Pourquoi d'ailleurs il faut repousser la vaccination? Parce qu'on pourrait dire pourquoi on ne la ferait pas à 4 mois ou à 6 mois. C'est parce que si les enfants ont des anticorps maternels, au moment où on fait le vaccin ne sert à rien. Et ça pose d'ailleurs un gros problème parce que si vous avez, et ça ils n'en parlent pas dans les recommandations, c'est qu'à l'heure actuelle vous pouvez encore avoir des mamans qui ont fait la rougeole bien sûr, qui vont donner à leur enfant beaucoup d'anticorps. Et l'enfant, il va mettre 18 mois, peut-être 2 ans, pour se débarrasser des anticorps maternels. Donc, il ne faudrait pas lui faire l'injection vaccinale trop tôt. Par contre, si vous avez une maman qui n'a pas fait la rougeole du tout et qui n'a pas été vaccinée, l'enfant ne sera pas protégé
dès la naissance, si vous voulez. Ce qui fait d'ailleurs qu'en 2008, on a eu une trentaine d'enfants entre 3 mois et 11 mois qui ont fait des rougeoles et qui ne sont pas protégeables par la vaccination. Et si c'est une maman qui a été vaccinée, elle va perdre ses anticorps, l'enfant va perdre ses anticorps plus rapidement que si c'était la maladie, et l'enfant ne sera plus immunisé plus tôt que si la mère avait eu la rougeole. Ce qui fait qu'il recommande effectivement une date, comme ça, il fixe une date qui est une date moyenne, mais à mon avis, je ne suis pas médecin, hein, je suis un ancien mathématicien, mais c'est pas le même métier, mais je pense que les médecins devraient faire attention, c'est-à-dire que si j'étais médecin, vu ce que j'ai lu dans les recommandations, je demanderais à la maman qui arrive pour faire le ROR, est-ce que vous avez fait la rougeole? À quel âge? Est-ce que vous avez été vacciné? Est-ce que vous avez eu ni l'un ni l'autre? Et selon la réponse qu'elle pourra me donner, je repousserai la date de la vaccination ou je l'avancerai. Je me permets de vous donner cette indication.
Oui, non, mais ça, c'est sûr, c'est l'idéal, c'est la médecine sur mesure, voilà, c'est au cas par cas. Mais faut-il savoir si la mère, si elle-même essaie, si elle a fait la rougeole, si elle a été vaccinée, quelquefois elle ne le sait pas. Donc,
Il y a effectivement ces recommandations qui sont faites par les experts que vous brocardez un petit peu, monsieur le professeur.
Non, mais c'est des experts, quoi. Je veux dire,
ils sont devant leur ordinateur.
Ouais. Peut-être comme les mathématiciens.
Mais on n'a pas les mêmes responsabilités.
Ouais, non, mais... Enfin, moi, je ne suis pas mathématicien, si j'ose dire, parce que là, vraiment, j'ai toujours été une nullité absolue. Mais là, c'est vraiment un problème de grande masse. Hein.
C'est ça.
On raisonne en termes de protection tout à fait collective.
Oui.
L'idéal, ça serait faire que des cas particuliers.
Mais ça ne peut pas être en pratique médicale courante, aussi pointu.
Oui, mais le résultat, c'est qu'on fait des trous dans la protection des nourrissons.
On est d'accord.
C'est certainement imparfait.
Dans la protection des nourrissons, il y a des trous dans la protection des adultes. Il faut aussi le temps qu'une génération passe pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Enfin, effectivement, observer les conséquences de faire, ne pas faire, refaire. Oui.
Mais pour la rougeole, le gros problème, c'est que cette vaccination, on fait donc 2 doses et ensuite on n'en fait plus. Mais on a tous les éléments. Il y a des tas d'études qui ont été faites qui montrent que ils nous disent que c'est efficace toute la vie pour ceux qu'on s'est reconvertis. Mais on sait que ce n'est pas vrai. Et on a même aujourd'hui des indications.
C'est probablement pas vrai pour tous les vaccins vivants qui ont quand même un pouvoir d'immunisation qui n'est pas celui de l'agent sauvage.
Seulement, le problème, c'est que comme le virus ne circule plus, le virus ne circule plus.
Il n'y a pas la réunion des trucs naturels.
Et que de ce fait, il n'y a plus les rappels naturels par la rougeole, comme vous le disiez tout à l'heure. On est en train de fabriquer des adultes de plus en plus nombreux qui ne seront plus immunisés contre la rougeole. Et on a même ceux qui ont fait la maladie, on dit la maladie protège toute la vie, mais on a démontré ça que quand il y avait les rappels naturels par la maladie, par la circulation chez les enfants. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de rappel naturel, on ne sait pas. Et en France, en 2007, il y a eu un médecin de 43 ans qui a fait la rougeole. En 2008, il y a eu une personne de 56 ans. Et au dernier bilan de l'INVS qui a été publié il y a 2 jours, une personne de 76 ans a fait la rougeole. Alors, est-ce que ces personnes avaient déjà fait la rougeole ou pas? Ils ne le disent pas. Mais c'est très probable.
J'ai observé un cas de coqueluche chez un prêtre de 90 ans. C'est un peu la même problématique. C'est sûr, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que quand on vaccine, on bouleverse complètement le truc naturel. Parce que c'est vrai que le virus sauvage ne circule plus. Donc à terre, il est vraisemblable qu'un jour ou l'autre, on va arriver à la conception qu'il faut faire des rappels pour tout le monde.
C'est fort probable, parce qu'on ne pourra pas éradiquer. Donc il y aura le virus en Afrique, par exemple. La France a beaucoup de contacts avec l'Afrique, tous les jours et même plusieurs fois par jour. Si on a une grosse partie de la population adulte qui est dégarnie, un jour, on aura une belle épidémie de rougeole chez les adultes. Ça, c'est inévitable.
Qu'on ne saura pas reconnaître parce qu'elle n'aura pas l'aspect clinique de la rougeole normale.
Sèvres, 64 de rougeole. Oui. Est-ce qu'il y a une explication
Non, je crois que l'explication qui est donnée, c'est la. Il y a eu dans les Deux-Sèvres, mais.
Il y en a ailleurs.
Il y en a ailleurs. Hein, en France, il y a eu plusieurs milliers de cas, en fait.
D'accord.
C'est l'insuffisance de la couverture vaccinale parce que le taux de contagiosité est très élevé. La rougeole et la varicelle sont les maladies infectieuses les plus contagieuses, avec la grippe, hein, les plus contagieuses. C'est-à-dire que si vous tombez dans une collectivité non vaccinée qui a un rougeoleux et que les autres ne sont pas atteints, pratiquement
toute la collectivité.
Puis après, il y a un problème de concentration humaine. La rougeole, c'est une maladie qui n'a pu émerger, j'ai dit que c'était un virus animal au départ, du chien transmis à l'homme, que lorsque les gens sont sédentarisés, hein, puisque c'est des virus à transmission respiratoire. Et donc, quand vous aviez des collectivités humaines qui étaient éclatées avec des peu nombreux, 10-15 individus, pratiquement, ça ne pouvait pas se transmettre. À partir du moment où les gens sont sédentarisés, qu'il y avait des conglomérats de plus de 500 individus, la circulation du virus pouvait s'installer. C'est ce qui s'est passé pour le VIH aussi, d'ailleurs. Ça se passe pour beaucoup d'agents infectieux. La concentration humaine, en facilitant le contact entre l'agent, enfin la personne non immunisée et celle qui peut transmettre le virus, fait que toutes ces maladies qui sont faites à transmission respiratoire, hein, par la distance de sécurité étant de 2 mètres, hein, si vous voulez éviter ça, vous êtes à plus de 2 mètres de celui de votre interlocuteur, en principe. C'est pareil pour la grippe, c'est pareil pour tout. Le méningocoque, enfin, tout ce qui se transmet par voie respiratoire. Voilà. Hein. Bien. S'il n'y a plus de questions, on va peut-être lever la séance. Vous étiez peu nombreux, mais très sympathiques. On vous remercie. Merci.